Et puis tout de suite, et en direct, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Le Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 septembre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Chers auditeurs, bonsoir. Bernard Lugan qui dirige ce soir le libre journal de Serge de Bekech. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Bernard.
Une reprise après ces quelques mois d'absence, après ces vacances chaudes. Bonsoir Jacques Herse.
Bonsoir.
Bonsoir Dominique Vénère.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir Philippe Conrad.
Bonsoir.
Eh bien voilà, toute l'équipe est rassemblée. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur de recevoir ce soir Jacques Herse. Jacques Herse, médiéviste de renommée internationale que nous connaissons tous. Et pour moi, c'est toujours une immense joie de recevoir Jacques Herse parce que j'ai eu le privilège de passer par les amphis de Jacques Herse, qui a été mon grand maître à Nanterre.
Et bien, le privilège est partagé parce que moi, j'ai eu le privilège d'avoir parmi une foule à peu près difficile, je dirais, quelques individus étudiants tout à fait remarquables dont vous étiez.
Ah, monsieur le professeur, vraiment, vous me faites rougir.
Non, voilà. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Eh bien, nous, vraiment, c'est en famille. Disons que c'est une émission en famille aujourd'hui parce que nous sommes vraiment entre nous c'est un immense bonheur vraiment de vous recevoir et de voir que les années passent et que nous sommes toujours présents avec cette même ardeur. Jacques Herse, nous vous recevons ce soir. Car vous venez de publier un livre qui est tout à fait intéressant et qui pour moi est encore plus intéressant parce que ce livre est consacré à l'esclavage musulman en terre africaine. Et ce livre a pour titre « Les négriers en terre d'islam ». Et il est sous-titré « La première traite des Noirs, 7e, 16e siècle ». Et ce livre est publié chez Perrin. Alors, ce livre est tout à fait intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, ce cadre chronologique qui est résolument limité à une période comprise entre le 7e et le 16e siècle. Alors, pourquoi le 7e et le 16e ? Parce que le 7e début de cette traite dès le commencement de l'islamisation. Et 16e siècle, les grandes découvertes.
Oui, et la traite française, disons.
Et la traite française.
À peine encore.
Les grandes découvertes qui vont ajouter à cette première traite musulmane une traite atlantique, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, qui aura une intensité pendant 2 siècles et demi, et qui va se terminer alors que la traite musulmane continue. Donc, nous pouvons dire que cette traite musulmane, qui se termine au XXe siècle, est une traite qui débute au VIIe siècle, est une traite qui a presque 2 millénaires, 1 millénaire et demi de profondeur. C'est tout à fait intéressant. Et vous allez, dans ce livre, vous traitez cette partie qui est importante, car, en fait, il y a dans la connaissance historique de la question de très nombreuses zones d'ombre. Et une des principales zones d'ombre était précisément celle du début de la traite.
Tout à fait, oui.
Alors, la première question que je vais vous poser, Jacques Herz, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Vous qui êtes un spécialiste de la Méditerranée, vous qui êtes un spécialiste du Moyen-Âge, vous aviez déjà parlé de la traite dans les villes italiennes. Alors, pourquoi précisément cette traite consacrée aux négriers en terre d'islam ?
Bien, c'était un projet que j'avais en tel, je dirais, depuis longtemps. Au moment même où j'ai écrit ce livre sur l'esclavage dans les villes marchandes d'Italie, dans les villes de la Renaissance d'Italie, je m'apercevais en effet qu'il y a des zones d'ombre considérables sur l'esclavage. J'avais l'espoir d'en avoir un peu éclairci une, il y en avait d'autres. Et si je me suis lancé là, ce qui est tout de même pour moi, ce qui était un peu marginal, je ne parle pas l'arabe, je ne lis pas l'arabe non plus, n'est-ce pas ? Et je n'avais pas beaucoup travaillé de ce côté-là. Il a fallu une quantité de circonstances. La première, vous n'y êtes pas pour rien,
ah bon ?
Bernard Lugan. Oh non, pas du tout. C'est que, effectivement, dans la lecture de votre premier ouvrage sur l'Afrique à l'endroit, je dois me tromper.
Afrique, histoire à l'endroit.
Histoire à l'endroit, vous en parlez.
Oui,
et vous étiez
exact.
Bien le premier,
c'est
ou à
exact.
Peu près, parce que d'autres en avaient parlé, mais c'était beaucoup plus confidentiel. Il fallait surtout aller chercher les anglo-saxons. Tandis que là, je vous avais, et je me suis dit, bien, voilà tout de même un spécialiste de l'histoire noire, disons, de l'histoire de l'Afrique noire. C'est une caution, c'est une garantie, il y a certainement quelque chose à creuser là. Vous donniez des références, et je me suis lancé. Et puis, ce qui a déclenché vraiment... Alors, c'est vraiment cette comédie, l'on peut dire, de la condamnation de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À y réfléchir, et plus j'ai travaillé pour ce livre, plus j'ai trouvé vraiment la clownerie de cette histoire, là, avec la réunion de Durban, n'est-ce pas, et autres. Mais comment peut-on concevoir qu'il y a là crime contre l'humanité, puisque, à un moment ou à un autre, toute l'humanité, à pratiquer l'esclavage, n'est-ce pas ? Donc, on ne voit pas pourquoi considérer cela. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est quand, là, je dois me tromper, mais je ne pense pas, cette loi qui est passée, car c'est par loi que nous décidons qu'il y a crime ou pas, lorsqu'elle est passée, je crois que c'est le Sénat qui a rajouté qu'on ne s'intéresserait qu'aux Noirs. Donc, il y avait là une volonté absolue de vouloir identifier l'esclavage au racisme. Alors, ce qu'était l'esclavage entre les Blancs, nous l'imaginons un peu, on a quand même lu les Romains, et ce qu'était l'esclavage entre les Noirs, vous êtes, vous, certainement, Bernard Lugan, beaucoup plus à même d'en parler que moi, j'ai essayé aussi d'en parler.
Oui, alors, ce problème est tout à fait bien posé dans votre livre, et ce qui frappe lorsqu'on lit votre livre, c'est que finalement... La traite des esclaves est liée au début de l'islam.
Absolument.
Dès les premières conquêtes. Pouvez-vous expliquer cette naissance, ce phénomène, et pourquoi ? Est-ce une originalité ?
Non, je ne pense pas que ce soit une originalité. Il est vraisemblable aussi, et là le titre est un peu trompeur, que les Romains ont aussi eu des esclaves noirs, évidemment. Les Égyptiens, sans doute aussi, n'est-ce pas ? Bon, il y a tout de même Aïda, et on peut repenser à tout cela. Mais là, il y a eu une traite, je crois que elle a commencé tout naturellement. Je ne pense pas qu'il faille... Voyez-vous, ma position est celle-ci. Je n'accable pas la civilisation musulmane. Dans ce livre, je n'ai pas pu m'exprimer autant que j'aurais voulu, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure en hors antenne, l'introduction n'est pas passée.
Expliquez-vous là-dessus.
Eh bien, mon problème à moi n'est pas de dire les musulmans sont pires que les autres. Ils ont pratiqué l'esclavage, et ils ne veulent pas en convenir, ils ont peut-être mauvaise conscience, c'est tout à fait normal. S'il fallait faire le catalogue de tous les méfaits que notre civilisation essaie de cacher aussi, la terreur sur la Révolution, le Palatinat et autres, il y en aurait beaucoup. Il est assez ordinaire qu'une communauté ne veuille pas convenir, il faut beaucoup de courage pour ça. Ce que font d'ailleurs les historiens africains actuels. Mais il faut du courage. Ce qui m'agace et que je ne tolère pas, c'est que les historiens français, naturellement je ne vous regarde plus du tout là, n'est-ce pas, je vous tourne le dos, c'est que les historiens français ont cette affaire, nous ont chargé de reproches à n'en plus finir pour la période coloniale qui en somme a duré 2 siècles, et puis le reste, on se publie des statistiques truquées ou complètement naïves, ou bien on n'en parle pas du tout.
Oui, mais monsieur le professeur, ceci est un trait français, car l'historiographie anglaise est très différente. Universitaires anglais n'ont pas ces pudeurs. En France, nous sommes face à une pensée intellectuelle qui est un petit peu une butte témoin de la pensée post-marxiste des années 60. Les anglo-saxons sont délivrés de cela.
Mais c'est chez eux que j'ai trouvé la documentation la plus importante. Pas uniquement, il y a eu un Français, mais Yassou.
Yassou. Mais les auditeurs de Radio Courtoisie me reprochent souvent de citer des sources anglaises. Je travaille quasiment exclusivement sur sources anglo-saxonnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté de recherche qui n'existe pas en France dans ce domaine. Si l'on veut à l'heure actuelle progresser en histoire africaine, il faut travailler sur les auteurs anglo-saxons. Si on travaille sur les auteurs français, on est bloqué sur la période post-marxiste.
Et les Français ont des pudeurs qui sont extraordinaires.
Idéologiques.
Idéologique, et puis une sorte de masochisme contre soi-même, s'attaquer tout ce qui est notre passé. J'en prendrai encore un autre exemple, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir, cela je tiens à cœur. Le livre était publié, pas publié, était sous presse. J'ai eu sous les yeux, là vous allez me suivre, dans la maison d'édition, j'ai eu un livre sur l'histoire des États-Unis, n'est-ce pas, dont je connais l'auteur très bien, nous avons siégé ensemble.
Nous connaissons le même auteur, nous avons siégé dans les mêmes conseils.
Eh bien, histoire de l'esclavage très détaillée. Il n'y a aucun doute, on en parle. Pas des musulmans, tellement pas des potentats noirs d'Afrique, mais pas un mot sur les navires américains. Historiens français. Ils n'ont transporté aux États-Unis que des Français et des Anglais. Il y a Bristol et La Rochelle, mais à part ça, rien du tout, n'est-ce pas, ni de Newport, ni de Charleston, rien.
Ce qui est un recul par rapport à l'état des connaissances. Nous avons un nombre considérable de publications traitant spécifiquement du commerce réalisé soit par les 13 colonies, soit ensuite. C'est tout à fait incroyable.
Oui, et les distilleries de Rome, n'est-ce pas, bon.
et d'ailleurs, les chiffres à peu près exact que nous avons de la traite atlantique ont pu être obtenus à partir des archives américaines, essentiellement à partir du nombre des esclaves débarqués.
Voyez-vous, l'historien français au courant spécialiste enseignant l'histoire des États-Unis à la Sorbonne, une des Sorbonnes, n'est-ce pas, n'en parle pas.
Oui, mais là nous sommes face au drame français, face au drame universitaire français. Alors, deuxième question que je voulais vous poser, il semblerait, à lire votre livre, que cet esclavage, bon, vous parlez des négriers en terre d'islam, mais vous parlez énormément également de l'esclavage des slaves.
Ah oui, bien entendu. Le mot slave est très difficile à définir. Je crois que là, ils se sont mis... moi, je vois deux périodes, n'est-ce pas, dans cela. J'ai essayé de les définir. L'esclavage lié à la conquête. Alors là, ils pouvaient rassembler tout ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas, en particulier en Espagne, et puis en Narbonnaise, et puis un peu partout. Et bien entendu, dans l'Empire byzantin, ils en ont emmené aussi. Et au début, donc, ils ont peut-être préféré cet esclavage-là qui ne coûtait rien. Il n'y a pas de traite, il n'y a pas à acheter, il n'y a pas à mettre au point un trafic, un commerce. Et puis après, les Noirs. Et je crois qu'au début, vous avez raison de dire que cet esclavage des Noirs a commencé très tôt, mais limité au début. Parce que la conquête s'est quand même un peu essoufflée.
C'était déjà limité par le fait que le Sahara était une barrière et qu'il faut attendre vraiment le 8e siècle pour voir la mise en contact des deux rives. Même si des contacts diffus existaient, il faut attendre l'islamisation de la région de Koufra et la région du Sahara central par les tribus berbères du Fezzan qui se convertissent pour voir arriver sur la diagonale du lac Tchad. C'est à partir de ce moment-là que l'on voit arriver les premiers Arabes, les premiers Noirs dans le monde arabe. Premier temps, les Slaves.
C'était pas une et petite affaire.
Hein, et les Berbères, et les Visigoths.
Oui. Et de la même façon, attendre aussi l'implantation des comptoirs maritimes sur la côte orientale. Ça ne s'est pas fait non plus d'un jour lendemain, n'est-ce pas? Alors là, le problème est celui-ci. Alors, évidemment, du point de vue méthodologique, c'est toujours la même chose. Est-ce que cette traversée du Sahara a été provoquée par une amélioration technique, le dromadaire, etc., ou le besoin de trouver, n'est-ce pas, des esclaves qui a déterminé une amélioration des techniques? Nous sommes toujours entre les deux.
C'est une
question que je vous pose.
Moi, je reste fidèle aux travaux de Desange sur le non-contact direct jusqu'à la période de l'islamisation. Ce que l'on sait à peu près maintenant, lorsque l'on voit par l'archéologie les traces du début de l'islamisation s'est faite depuis la Libye. Elle ne s'est pas faite depuis le Maghreb vers le sud, elle s'est faite depuis la Libye par le Fezzan, la région de Koufra et vers le lac Tchad. Et à partir de ce moment-là, il est possible que l'ouverture se soit faite dans un second temps, notamment vers le royaume de Ghana, etc. Mais il faut attendre deux siècles. On peut vraiment... D'ailleurs, les textes arabes qui parlent des Noirs sont des textes de la fin du 8e ou du 9e siècle.
Absolument.
On n'en trouve pas auparavant. Donc il y a vraiment ce... Donc c'est pour cela que je vous posais la question. Donc au départ, les Slaves, les Visigoths...
Oui, les Russes ensuite. Alors là, c'est une traite.
C'est une traite.
Oui, le voyage dans les pays de la Volga, etc., ça c'est très intéressant. Et puis, à un certain moment, on a recherché, ou pour la main d'œuvre ou pour l'armée, il y a tout le problème, n'est-ce pas, du moment où l'on s'aperçoit que les Blancs dans l'armée ne sont pas très fidèles, c'est beaucoup plus difficile, donc on prend des Noirs. Et on s'intéresse à ce que l'on écrit, généralement, enfin j'ai passé ma vie comme cela, je trouve que lorsque l'on étudie le problème militaire et des armées, des révoltes, là c'est passionnant. Parce qu'on voit à quel point le recrutement des Noirs devenait indispensable.
Et dans toutes les armées musulmanes, nous trouvons des contingents noirs.
Oui.
De l'Est à l'Ouest.
Ce qui est, au moment où nous avons, c'est une originalité extraordinaire, n'est-ce pas, nous, de notre côté, nous avons la féodalité. C'est-à-dire que les soldats, si on peut dire, les guerriers sont des amis, des parents, des protégés. Eux n'ont même pas des mercenaires. Non, même pas, c'est des esclaves. C'est quand même extrêmement différent.
Mais des esclaves qui vont se battre.
Oui.
Et qui vont être relativement fidèles. Et
ils sont très fidèles parce qu'ils sont isolés dans un pays étranger. Et personne ne s'aime, n'est-ce pas?
Personne.
Les populations ne les aiment pas. Ils n'aiment pas les populations. Ils aiment le maître.
Ils sont liés à un maître et leur sort dépend du maître. Le maître disparaît, ils sont massacrés.
Alors, ce n'est pas seulement les Noirs. Et le Mamelouk ont à peu près fait la même chose.
Mamelouk, c'est un peu différent parce qu'il y a, vraiment une recherche raciale chez les Mamelouks. C'est un petit peu... Alors, Jacques Hers, vous nous parlez d'Islam. Revenons maintenant aux Noirs. Parce que les négriers ont interdit ça. Ce qui frappe lorsqu'on lit votre livre, et vous avez un chapitre entier qui est consacré à cela, c'est tout à fait intéressant. Ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est que, visiblement, pour les auteurs arabes, les Noirs étaient des êtres méprisables. Aujourd'hui, cela relèverait de la loi des sauts plévennes.
Oh oui, pour le moins.
Pour le moins.
Mais vous ne trouvez pas ça? Naturellement, il y a une littérature occidentale, disons chrétienne si l'on veut, beaucoup plus pauvre sur l'Afrique, c'est évident. Mais elle n'est pas agressive à ce point-là. Pas du tout. Là, il y a différentes... Je crois qu'il y a différentes raisons, différentes étapes. Au début, ils ne les connaissent pas. Donc, ils suivent Ptolémée, les climats. Alors, c'est merveilleux. Bagdad et tout le reste, ou à peu près, n'est-ce pas, c'est tempéré. On est bien, nous autres. Au nord, ils sont complètement abrutis. Et au sud, ils sont lubriques.
Lubriques. C'est cette vision lubrique. Oui, c'est ça, exactement.
Oui, c'est ça. Et ça, ils le disent, ils l'ont dit pendant 3 siècles. Et alors, c'est merveilleux. Vous avez lu le détail, n'est-ce pas? Le détail, la lune, Mars, les conjonctions, tout y passe. Bon.
En revanche, ils ont une tendresse pour les femmes noires, de temps en temps.
Ah bah oui, à partir d'un certain moment. Oui.
À partir d'un certain moment, surtout quand ils découvrent les femmes de Nubie.
Oui, c'est celle-là, oui. Alors ils entrent dans tous les détails.
Dans tous les détails, là vraiment. Aussi, oui. Vraiment.
C'est là que l'on peut parler d'une inconvenance, n'est-ce pas? J'ai lu Marco Polo, j'ai lu tous les récits que l'on peut imaginer, n'est-ce pas, sur la découverte de la Terre, même les gens, même Christophe Colomb, et même aux États, en Amérique, quand ils découvrent un peuple, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'est-ce qu'on peut faire des femmes, dans de quelle façon.
De toutes les façons précises. Oui. Il y a évidemment un mode d'opération qui est bien décrit.
Ce n'est pas le lieu d'en parler, évidemment, on ne peut pas. Non. Mais c'est très précis, vous savez, extrêmement précis.
Sur les anatomies détaillées.
Oui.
C'est bon, bref, les auditeurs nous auront compris.
Alors, la femme est un instrument sexuel.
Absolument.
Un instrument, oui.
Absolument.
Alors, c'est très clair, chez les auteurs arabes, tels que vous en parlez, Jacquers, on a l'impression, soit on a affaire à des femmes qui appartiennent à la non-humanité, donc on ne les regarde même pas, et celles qui attirent l'œil sont de purs objets sexuels.
Uniquement, oui.
Uniquement.
Ou alors si elles sont cuisinières aussi.
Oui.
Mais elles font bien la cuisine et elles font de bonnes pâtisseries, enfin, oui. Ceci dit, effectivement, nous avons quelques textes. C'est ça le problème. On ne sait pas, peut-être, il devait y avoir des maîtres qui avaient chez eux. Toujours, les conditions pouvaient être très variables. Mais ce qui est frappant, vous alliez de toute façon citer ce livre, qui n'a absolument pas l'équivalent en Occident, car on en a eu des esclaves à Gênes, à Florence et tout ça. C'est le guide de Butland.
Tout à fait.
Je ne sais pas comment il faut prendre. C'est extraordinaire.
In Butland.
C'est un, je crois qu'il était d'origine chrétienne d'ailleurs, puis ensuite musulman, né à Bagdad. Ou à Damas, on peut se tromper. Ensuite, mais vraiment un homme qui... Et que nous connaissons... Là aussi, ils l'ont rejoint très, très précisément la pudeur, la discrétion étonnante des Occidentaux. Il a écrit un traité de médecine, n'est-ce pas, que moi j'ai connu, j'allais dire étant, pas enfant, mais étant étudiant. Le Taquinum Sanitatis, n'est-ce pas, la vertu des plantes. C'est été traduit, retraduit. Il y a des exemplaires illustrés dans toutes les bibliothèques municipales de France. Mais il a écrit un guide pour l'achat des esclaves, comment s'y prendre, comment les reconnaître, comment les faire parler, courir, enfin, etc. Les essayer de toutes les façons, toutes les roublardises possibles. Ça n'a jamais été traduit. Moi, j'en connais 10 pages parce que quelques auteurs ont fait des citations. Et il faut, je ne sais pas l'arabe, si j'attends que quelqu'un, et ça serait intéressant pour connaître la civilisation musulmane. Ben non, on ne la connaît pas. On connaît tout, n'est-ce pas, le moindre chant d'amour dans les jardins de Bagdad ou d'ailleurs. Vous les connaissez, mais le guide, vous ne connaissez pas.
Le guide du choix de l'esclave.
Vous n'avez pas le droit.
Jacques Hers, ce domaine de l'esclavage musulman en terre africaine est un domaine qui est excessivement vaste. Intéressons-nous maintenant à la partie sud-saharienne, donc à la traite des Noirs, puisque votre livre a comme sous-titre « La première traite des Noirs, 7e, 16e siècle ». Alors, cette première traite des Noirs s'exerce dans quelle direction ?
Vous voulez dire les acheteurs ?
Les acheteurs, oui, bien sûr.
Oui, les grands. Ben oui, là aussi, c'est assez intéressant. Je crois que les grands marchés, c'est évidemment vers l'Orient d'abord, par des transitions, par les marchés égyptiens, Khartoum et puis le Caire, c'est sûr. Consommation sur place et au-delà, quand même, transit vers l'Orient, la Mer Rouge, etc. Bien que, bien sûr, il y a l'Éthiopie, là, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, de l'autre côté, vous y avez fait allusion tout à l'heure, le Ghana, région du Niger, au Niger, du Sénégal un peu moins, et puis vers le Maroc.
Les routes transsahariennes. Vers Sigil Massa, Tahrir.
Voilà, etc. Sigil Massa, oui, bien sûr, dont on parle beaucoup, beaucoup, et qui est sans doute un nœud de route. Ce n'est plus grand-chose.
Ah, ce n'est plus rien.
Non, j'y suis allé, oui.
C'est un éventail ouvert sur le désert et sur l'Afrique du Nord, ce n'est plus rien.
Non, c'est un peu triste, parce que c'est intéressant. Et ce qui m'a frappé, c'est que tant là que plus tard, parce que vous vous placez là vers 9-10e siècle, oui. Et ça continue, rien ou presque vers le Maghreb central. Bon.
Vers le Maghreb des Irides
assez peu, et algérien, très peu. Très peu. Alors les routes, bon, les routes on les fait, les routes, n'est-ce pas ? C'est pas du tout l'absence de routes. Je me suis pas interrogé, j'étais venu tout seul, je peux me tromper. Ben oui, mais il y a la piraterie. Ça leur coûte moins cher. Vous comprenez ? Ça leur coûte beaucoup moins cher. Alors, il est évident que au moment des pirates, c'était déjà pas mal, Mahdia, et puis Beaune, Bougie, Oran même. Enfin, Oran devait recevoir des esclaves. Et puis, il y a aussi la Reconquista, enfin la guerre en Espagne, donc ça leur en fournit pendant longtemps, ça. Pendant très longtemps, n'est-ce pas ? Enfin, jusqu'au XIIIe, ou à peu près. Et puis ensuite, il y a cette piraterie, puis après, il y a les barbaresques.
Mais Jacques Ayers, il y a une autre raison.
Ah bon, ouais.
C'est qu'il y a également une absence d'État, et le seul État, c'est le Maroc.
Oui.
Et le Maroc, qui a une permanence commerciale avec le Sud, tandis que l'anarchie et les successions de dynasties dans le Maghreb central et dans le Maghreb oriental font que il n'y a pas de contrôle élargi vers le Sud. La seule entité politique contrôlant son Sud, c'est le Maroc.
Oui.
D'ailleurs, nous voyons bien aujourd'hui que les Berbères de l'anti-Atlas sont très africanisés. Ils ont le teint mat, alors que les Berbères de Kabylie sont blancs.
Oui.
Il n'y a pas eu de métissage du tout dans la zone berbère algérienne, alors qu'il y a eu un fort métissage.
C'est très net, oui.
Et les seuls Berbères non métissés au Maroc sont dans le Rif.
Oui. Et puis, de toute façon, quelle est la population du Maghreb dans les villes? Quelle était la population d'une ville comme Alger ou Bougie? Un trou, n'est-ce pas?
Un trou.
Un trou. Aucune industrie. Et pas besoin d'une main-d'œuvre ou quoi que ce soit. Très peu de culture.
Alors, si je vous suis bien, la traite africaine en direction de l'Afrique du Nord était relativement peu importante.
Je le pense, oui.
Alors, dans quelle direction était-elle importante?
Ah ben, le Maroc, à un certain moment, et puis surtout vers l'Orient, au fond. Je crois que de Tunis, y compris avec peut-être un peu moins que plus loin, la Libye.
Surtout la Libye.
Les monts de la Barka, ouais, n'est-ce pas?
Et l'Égypte.
Et par l'Égypte.
Alors, ces esclaves qui arrivaient dans le monde musulman partaient dans deux directions. Donc le Maroc, essentiellement au Maroc pour construire, pour la garde noire.
Bien sûr.
Les abides, les esclaves noirs, les fameux abides. Et du côté de l'Orient, quelle était leur destination en dehors de l'armée?
Oh bien, bon, tout ce qui est travail domestique, ça n'y a aucun doute, toutes les cours devaient en consommer une quantité énorme, considérable. Pour le moment, nous ne parlons que des musulmans blancs, disons, parce qu'après, il y a aussi les royaumes musulmans d'Afrique qui devaient consommer sur place, alors là, énormément.
Mais nous sommes très mal documentés.
Oui, mais il y a les récits de voyage, un peu quand même, qui s'ébahissent. Là, vraiment, ils trouvent des gardes de noirs de 300, et puis il y a des filles aussi très nombreuses, enfin tout ça, très bien. Puis il y a quand même les villages de culture, là, de je sais pas comment vous le prononcez, vous le Sanraï, c'est ça?
Sanraï.
Oui, Sanraï, oui. Bon, mais en Orient, l'industrie, la domesticité et puis la culture intensive. Alors c'est la fameuse affaire de la canne à sucre, n'est-ce pas, des Noirs dans la basse Mésopotamie.
D'où la révolte des Indes.
Dans la révolte des Indes.
Ah, que se passe-t-il?
Ah bah alors là, il se passe beaucoup de choses. Il y a longtemps que j'y pensais. Je crois même que très très rapidement, à un moment, dans un précis que j'avais écrit maintenant, alors je compte plus les années, enfin mettons 30 ans, 40 ans, je disais, mais comment déjà ça m'agaçait. Vous nous parler de Spartacus, qu'est-ce que c'est Spartacus? C'est rien du tout. Cela, ça a duré 14 ans. Pendant 14 ans, ils se sont battus. Il y a eu 4-5 armées. C'était pas aux antipodes, hein. C'était pas les Falklands, hein. Mais c'était tout près, là, de 4 ou 5 armées parties de Bagdad qui ont été anéanties. Complètement, n'est-ce pas? Ils ont pris Bassora. Ils l'ont tenu. Ils ont battu Monet. Ils ont fait tout, n'est-ce pas? Et ils ont eux-mêmes eu pas mal d'esclaves par la suite, bien entendu. Alors, c'est une révolte qui a été provoquée par le développement d'une culture intensive. C'est pas au moment de la culture, hein, c'est l'assèchement. C'était un désert salé, enfin des marécages salés. Il a fallu assainir le sol, crever la croûte, rassembler tout ça. Ça a été terrible et les Noirs étaient dans des situations impossibles.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce fonds de population noire a disparu.
Eh oui. Ils ont été exterminés là, ils ont perdu quand même. Bon, en réalité, ils ont servi les ambitions d'un chef musulman, hein. Ça, bon, on peut pas entrer dans le détail, mais peut-être n'aurait-il pas réussi. c'est évident, mais enfin, ils étaient là quand même. Quand ils ont voulu reprendre l'affaire plus tard, et tout seuls, ils n'ont pas réussi.
Ils ont été éliminés.
Mais ce que nous évoquons ensemble en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus tragique, mais d'une façon générale, l'exploitation de la main-d'œuvre noire dans les mines a été, alors là, vous avez les mines de sel du Sahara. Mm-hmm. C'est quelque chose d'énorme, c'est affreux. Et là, ils en parlent, les voyageurs musulmans. On changeait les équipes tous les 2-3 mois, parce qu'ils ne survivaient pas.
Vous insistez sur le statut des esclaves chez les Abbassides, dans la Bagdad des Abbassides. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Comment juridiquement ces esclaves étaient-ils perçus, présentés? Avaient-ils des garanties? Avaient-ils des droits?
Vous me mettez dans l'embarras parce que je suis très inconscient, enfin très mauvais esprit de ce côté-là. Je ne crois pas au carcan juridique. De la même façon, j'ai expédié, ça, je pense que c'est un peu désinvolte, la question est, que dit le Coran? Qu'est-ce que ça peut faire, n'est-ce pas? Est-ce que nous pratiquons l'évangile, ce que nos ancêtres l'ont pratiqué du début à la fin? Sûrement pas. C'est comme ça que l'on a commis des erreurs monumentales, en particulier pour le Moyen-Âge à propos du prêt à intérêt. C'est défendu, donc on ne pratique pas. Que le Coran ait dit ceci, cela. Moi, je crois, vous posez la question, que la situation juridique n'a pas dû jouer beaucoup. Je pense qu'il y a des rapports de force et puis qu'il y a des qualités humaines différentes. Il n'y a aucune raison d'imaginer qu'il n'y ait pas eu des maîtres marchands, négociants, pères de famille, musulmans, j'entends bien, qui se soient comportés de façon différente les uns des autres, c'est sûr. Ah, le pire était évidemment le marchand d'esclaves. Ça, c'est terrible. Alors les marchés, là...
Les esclavagistes musulmans étaient à la fois des hommes qui capturaient, ou bien ils se contentaient d'acheter, ou les deux à la fois?
Les deux, ça j'ai consacré un long chapitre. Il y a le brigandage à la petite semaine, là on se cache au coin d'un bois, des marchands même qui vont, et puis les noirs entre eux.
Bien sûr.
Naturellement.
50% de l'Afrique a vendu 50% oui. L'autre moitié de l'Afrique.
Oui, qui même, ne parlons pas des princes qui allaient faire ça, n'est-ce pas, courir avec des armées pour revendre, ça c'est très intéressant, mais même dans les villages, d'un village à l'autre, n'est-ce pas? On n'avait plus tellement d'argent, on allait faire des razzias, et puis on faisait travailler, et puis quand on manquait d'argent, on vendait les esclaves ailleurs. Mais en général, arriver dans les grandes villes, c'est évidemment des intermédiaires. À Bagdad, à Damas, ça, ce sont des intermédiaires. Ce sont des maquignons.
Notre collègue François Renaud, dans son histoire, dans La Vigerie, l'esclavage africain à l'Europe, cite en 1870-72 encore 80 marchands d'esclaves ayant pignon sur rue au Caire.
Ah oui.
Donc une permanence.
Ça a duré très longtemps.
Jacques Ayers, une question que j'aimerais vous poser, qui est une question tout à fait intéressante et qui est une question qui est toujours présente. Que pensez-vous de cette idée selon laquelle l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest n'a pas été accélérée, a plutôt été freinée, justement par l'esclavage, car les musulmans n'avaient pas intérêt à islamiser, car le Coran interdit de réduire en esclavage les musulmans. Et l'islamisation explose véritablement dans l'Ouest africain depuis que la colonisation a mis un terme, pratiquement, à ces activités d'esclavage.
C'est tout à fait possible. Ça a été étudié, n'est-ce pas? Ça a été étudié par un de mes collègues qui s'est risqué, là, ces genres de vices, n'est-ce
bien
pas?
Sûr, bien sûr.
Que j'ai connu, moi.
Spécialiste de Tegdaoust.
Oui, et spécialiste des Carolingiens, avant qu'il ne soit nommé à Dakar.
Des Carolingiens, le royaume de Ghana, l'univers est le même sous les cieux différents.
Oui, c'est ça, oui. Mais son analyse, qu'il a dû prendre quelque part, mais lui-même sans doute, n'est pas inintéressante, effectivement. Il y a un équilibre. Il savait sans doute que faire. Que faut-il faire, n'est-ce pas? Ils étaient poussés quand même. Alors, ils devaient toujours maintenir. Il y a une formule, je ne sais pas si elle est de lui ou d'un autre, qui est très juste. Il fallait toujours qu'il y ait une sorte d'univers marginal où l'on puisse jouer, n'est-ce pas, sur l'islamisation, mais pas trop. Et puis alors, j'étais très content de trouver des sources et de pouvoir parler de ça. Ben, quand on a islamisé et qu'on cherche des esclaves, il n'y a plus qu'une seule raison, vous les taxez d'hérétiques. Et à ce moment-là, c'est réglé, n'est-ce pas? ou de mauvais musulmans, c'est sûr.
Nous avons de nombreuses questions d'auditeurs, Jacques. Victoria.
Ou des commentaires. L'esclavage des Noirs existait bien avant l'islam. Sur des bas-reliefs égyptiens, oui. On peut voir des Noirs nubiens enchaînés. Ce n'est donc pas une invention des Européens.
Personne ne l'a dit.
Une auditrice. Pour l'esclavage, l'islam n'a pas mauvaise conscience à cause de sa religion, qui lui donne raison, puisque n'est considéré comme un homme que celui qui est musulman. Qu'en est-il des descendants des esclaves emmenés dans les pays musulmans? Que sont-ils devenus?
Il n'y a pas en général de descendants. Voilà le problème, et je crois que je suis content de cette question-là.
C'est important.
Parce que je n'ai pas pu le développer, mais c'est... Ayant discuté avec mon éditeur, c'est un moment quand même où j'ai réussi à le convaincre, l'éditeur actuel, n'est-ce pas, en lui disant quand même, regardez, vous parlez de l'esclavage aux Antilles et ailleurs, ça nous a laissé quand même une population, bon, et ça nous a laissé surtout une culture. Il n'y a pas de doute, hein, aux États-Unis et ailleurs, il y a une culture issue de l'esclavage. Là, il n'y en a pas du tout. Donc, en principe, il n'y a pas de descendants. Pour deux raisons, cette auditrice peut m'entendre, la plupart sont eunuques, quand il s'agit des hommes, déjà, n'est-ce pas? Et deuxièmement, les femmes, on évite, n'est-ce pas, qu'elles aient une descendance.
Ou alors, elle est limitée. Dans les grandes familles, il y a toujours une noire dans le harem, oui. Mais c'est une parmi les autres.
Oui, oui, c'est...
Alors, le Maroc est un cas un peu particulier, parce qu'il y a quand même un fond assez négroïde dans cette partie. Parce qu'il y a eu les Abides, ces contingents qui ont été renouvelés génération après génération, d'esclaves militaires noirs,
oui, oui.
La fameuse garde noire.
Oui.
Mais ça, on ne le trouve pas en Tunisie.
En Orient encore moins.
Dans la Genèse, il est dit que la race de Cham est maudite et sera esclave des autres races. Un auditeur, au temps de la reine de Saba, on traversait le Sahara à cheval. Pourquoi cela a-t-il disparu?
On ne traversait absolument pas le Sahara à cheval au temps de la reine de Saba, parce que au temps de la reine de Saba, le Sahara était déjà passé dans la phase ultime de la péjoration climatique, et le cheval n'a jamais été utilisé dans le Sahara pour le traverser. Le cheval permettait des passages dans les zones non entièrement désertiques, mais le mythe de la route des chars et le mythe du Sahara vert est un mythe dont les universitaires ont fait litière depuis longtemps.
Un auditeur suggère qu'on interdise la flûte enchantée de Mozart, puisque le personnage de Monostatos est noir et que c'est le génie du mal. Alors un auditeur nous envoie un fax avec un joli petit dessin. Je compte bien porter plainte contre la ville de Rome pour crime contre l'humanité, parce qu'elle a réduit en esclavage mes ancêtres provençaux en 123 avant Jésus-Christ, lors de la formation de la province romaine.
Avez-vous des réponses, Jacques, à toutes ces questions?
Non, pas beaucoup, mais évidemment, l'esclavage a existé au temps de l'Antiquité. Il a existé encore, je le répète, au Moyen-Âge, dans certains cas. Mais j'ai fait tout un livre là-dessus et nous n'en parlons pas aujourd'hui.
Alors, Jacques, une autre question quant aux routes. Alors, nous avons parlé des routes transsahariennes. Et il y a tout de même une route qui est essentielle, et vous en parlez longuement dans votre livre, c'est la route de l'océan Indien.
Ah oui.
Alors, pouvez-vous nous en parler de cette route?
Eh bien, cette route de l'océan Indien, là où ça m'a beaucoup intéressé, personnellement, c'est toujours le plaisir que l'on a à écrire, sinon j'en écrirais pas, c'est que... Cette poussée islamique a été bien plus considérable que personnellement, n'est-ce pas, ayant très peu de lumière sur la question, je ne l'imaginais. Et ils sont arrivés à très près de prendre l'Éthiopie, il n'y a aucun doute. Le royaume chrétien d'Éthiopie allait sombrer complètement. Et alors, je ne me rendais pas compte du tout de cela, et je pense que plusieurs auditeurs seraient aujourd'hui même dans mon cas. Ce sont les Portugais qui ont sauvé, n'est-ce pas, il n'y a aucun doute.
Le fils de Vasco de Gama.
Le fils, Christophe, celui-là.
Christophe
Vasco de Gama. Ils ont débarqué, 500 hommes, 150,
oui. Oui, quelques cent, oui.
Très peu,
oui.
Ça suffit. Ça suffit parce qu'il y a eu une pénétration, peu à peu, à cause de l'esclavage, en plein, en Éthiopie, avec des sultanats qui se tenaient, qui n'étaient que des marchands d'esclaves, et puis à la fin, ils sont rassemblés, et sans doute que le roi des rois, le Négus, n'est-ce pas, allait diminuer. Et alors, ceci, quand même, ça m'a beaucoup frappé, et là aussi, je trouve que l'on nous a, a priori, complètement faussé l'explication de l'histoire. On nous parle de la route des Indes, du point de vue portugais, les épices, le poivre, Mais non, c'est qu'ils sont allés, n'est-ce pas, aussi combattre l'islam. Vous en rendez pas compte? Ils y allaient. Ben, on nous dit, ah oui, ils ont conquis, ils ont vu Hormuz, etc. C'était, tout ça, c'était pour les épices. Pas seulement.
Non.
Parce que c'est une guerre de religion aussi.
Vous développez ce point, Jacques.
Ah, mais ça. Oui, ce qui m'a frappé, c'est pas moi qui venais de m'intéresser d'une certaine façon à Lépante. 10 ans plus tard, c'est la victoire des Portugais. Alors, d'un côté, les Espagnols sont à Lépante. De l'autre côté, les Portugais sont dans l'océan Indien. C'est quand même tout. Et là, il ne s'agit plus des sultanats ou des Perses et tout ça. C'est les Turcs qui ont pris position contre l'Éthiopie, n'est-ce pas? Ils sont à Aden et puis ils traversent très facilement. Donc, il y a une tenaille chrétienne, je peux dire, concertée. Peut-être pas, mais enfin, la réalité est là. Espagnol, pape, hospitalier...
En Méditerranée.
En Méditerranée, et dans l'océan Indien, les Portugais, avec un périple, n'est-ce pas, d'une autre importance, ça c'est évident.
Oui, il est évident que la chrétienté est maîtresse des mers. La chrétienté va gagner la bataille navale, les batailles navales.
Pour ce temps-là, oui.
Ce qui va permettre aux Portugais, d'ailleurs, d'enfermer dans le golfe persique. Mm-hmm. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre également, vous montrez bien cette vieille permanence de la présence arabe et ensuite musulmane dans l'océan Indien, avec l'île de Zanzibar, la fameuse île Menoutias du périple de la mer Érythrée.
Oui.
Parce que n'oublions pas que depuis au moins le premier siècle de notre ère, nous avons des traces documentaires de contact avec ces régions entre l'Arabie et l'Afrique orientale. Alors cette traite de l'Afrique orientale est une traite qui aboutit où également à Bagdad qui...
Elle va d'abord en Arabie pour commencer, n'est-ce pas? Et je crois que la Mecque et Médine ont été de très très gros marchés. Ça, elle va d'abord là.
Et là encore, il n'y a pas de descendant.
Non, il n'y a pas de descendant. Et vous avez les caravanes ensuite, et vous avez une caravane pour Bagdad. La route Médine, enfin la Mecque-Bagdad, était une des routes les plus fréquentées, l'on peut dire, du désert oriental. C'était très...
Est-il possible d'avoir une idée quant aux chiffres, au volume de cette traite arabe?
Non,
c'est la grande question.
Moi pas. Oui, parce que nous intéressons pas à la même période.
Oui. Non, sur la période plus récente, oui,
vous crois. Oui. Mais de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mauvais esprit, je suis un sceptique. L'histoire statistique m'a tellement fatigué à un moment, et puis à mon âge, ce n'est plus possible, n'est-ce pas, que je me dis... Pensez à la fraude. J'ai vu les registres de douane. Hein. Je les ai vus, les registres de douane génois, je peux vous le dire, n'est-ce pas, comment ça marche, du 15e siècle. Et qui aurait la stupidité, quand l'État n'est pas encore trop fort, n'est-ce pas, de faire des déclarations correctes? Vous imaginez tout de même, malgré tout, dans 100 ans, un historien qui ferait l'étude des fortunes françaises après les déclarations d'impôts? Bon, et ben c'est... Alors là, je ne voudrais pas démolir tout votre credo, oui, mais pour le Moyen-Âge, non. Et puis là, il n'y en avait pas du tout. Il n'y en a pas du tout de registre.
Les seuls registres utilisables par l'historien sont les registres du sultan de Zanzibar. Mais pour une période largement postérieure.
1860?
Oui, 1830, 1865. Sur 40 ans, nous avons ces registres qui permettent de savoir exactement combien d'esclaves ont été débarqués à Zanzibar, parce que chaque esclave débarquant à Zanzibar était astreint. Enfin, le felouquier était astreint au versement d'une pièce d'argent, le thaler de Marie-Thérèse. Et il y avait des percepteurs qui était là. Donc, il y avait toute une traite clandestine. Mmh. Mais la traite officielle...
Oui, ça donne une idée, oui.
Donne à peu près 800 000 sur 40 ans, ce qui est assez considérable. Pour la seule traite officielle. Les travaux de Jacques Marissal là-dessus sont tout à fait intéressants.
Et maintenant, ils le reconnaissent. Hein. Mmh. À Zanzibar, il...
Ah oui. Dominique Vénère, vous avez une question?
Oui, une question incidente, mais j'imagine que votre réponse sera analogue. A-t-on une idée de ce qu'était l'ampleur de l'esclavage profitant de la piraterie en Méditerranée?
Non, pas davantage. Je crois que, vous comprenez, aussi, on est d'un bord, on met un zéro en plus. On est de l'autre bord, on enlève ce zéro, quoi. C'est un peu ça. Alors, des registres, on n'en a pas. Bon, il y a tout de même les rachats. Il y a eu les associations religieuses.
Les Mercédaires,
les Trinitaires, les Mercédaires, etc. Mais finalement, ça s'est dilué parce que les franciscains s'en sont occupés plus tard. Moi, la seule chose que j'ai dans un livre précédent, n'est-ce pas, la seule chose que je retiens, c'est que certainement avec les barbaresques, c'est-à-dire avec les Turcs, n'est-ce pas, ça a considérablement augmenté. Et il y a une différence entre, et je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, entre la piraterie et la guerre. Ça n'a rien de comparable. Vous comprenez, la piraterie, bon, 5-6 fustes, des galères, ils allaient, et puis d'un seul coup, bon, ben, il y a 5-6 paysans qui se baladent par là, on rafle. Tandis que quand ils prennent d'assaut une ville comme Nice, car c'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, ou toutes les villes du littoral italien, là, de Croude, et qu'ils prennent d'assaut avec un bombardement, et qu'ils emmènent 10 000 hommes ou femmes de suite, ben, c'est autre chose, ça c'est la guerre, n'est-ce pas, c'est extrêmement différent.
Victoria, question d'auditeur.
Un auditeur nous signale que durant la guerre du Golfe 1990-1991, les Saoudiens qui voyaient débarquer des troupes américaines comportant une forte proportion de Noirs croyaient que ces derniers étaient des esclaves.
C'est pas possible, pas du tout.
Une auditrice lui demande, avez-vous eu l'occasion de vous intéresser aux fêtes toujours en vigueur chaque année à Majorque, commémorant les victoires des chrétiens sur les morts venant faire des razzias dans l'île pour se procurer des esclaves. La fête commence rituellement par le cri d'épouvante « mort en vue ».
Non, j'ai bien visité Majorque, mais j'étais pas là ce jour-là, mais j'imagine que... Non, je dis le jour de la fête, mais j'imagine qu'effectivement, on n'a pas tort de... ce sont des événements qu'on peut célébrer, bien sûr.
Camoens, le poète portugais, dans ses Lusiades, développe abondamment la lutte des navigateurs portugais contre les musulmans dans l'océan Indien.
Bien sûr, bien sûr.
Et enfin, une auditrice nous dit, au Maroc, il y a des descendants d'esclaves noirs de l'époque de Moulay Ismaël, qui est contemporain de Louis XIV. Ces esclaves noirs ont été aidés par Hassan II, qui les a logés dans une enceinte spéciale, et j'ai eu personnellement une femme de ménage descendante de cette communauté. C'est à Meknès, et on peut d'ailleurs visiter les souterrains qui font 12 kilomètres environ, dans lesquels on retrouve les anneaux qui enchaînaient les esclaves.
Oui, alors, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Quand on parle d'esclaves noirs au Maroc, en fait, ce n'étaient pas des esclaves noirs au sens esclaves domestiques, c'était des esclaves guerriers, c'était les abides. C'était les contingents guerriers. Le sultan, n'étant pas sûr des hommes qui l'entouraient, s'était constitué une garde noire.
Qu'il achetait
par le commerce transsaharien, qui arrivait par Sidi Massah, sous le contrôle des grands seigneurs de l'anti-Atlas, notamment du pacha de Marrakech et autres. Et à Meknès, ce qu'a vu cette auditrice, ce sont les anneaux des esclaves blancs, des esclaves chrétiens. Car Meknès n'a pas été construite par des esclaves noirs, mais Meknès était construite par des esclaves chrétiens. Et nous sommes parfaitement documentés sur la question. Ils avaient même, à certains moments, un aumônier. Et ces esclaves chrétiens étaient plusieurs milliers. C'est eux qui ont jamais, pas les esclaves noirs. Les esclaves noirs n'étaient sauf dans les plantations de canne à sucre.
Oui, voilà.
Et les esclaves noirs étaient utilisés pour la guerre. C'était les abides, c'était les guerriers. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est un peu comme quand on parle de la maison des esclaves à Gorée, dont nous parlons tout à l'heure.
Ah oui, bah,
on mélange tout là encore. Jacques Hers, une question, nous arrivons au terme de l'examen de votre livre qui est tout à fait passionnant. Pourquoi cette histoire de la traite musulmane en terre d'Afrique, en terre africaine noire, a été si longtemps cachée?
Bon, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a une islamophilie, n'est-ce pas, bon, qui est très 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 forte en France, très nette, qui, moi je l'ai vu quand j'ai étudié pour les barbaresques, n'est-ce pas, la turcophilie est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, on imagine mal. Vous comprenez, quand un auteur comme Rabelais dit que les esclaves à Alger étaient certainement moins malheureux que les collégiens du collège de Montaigu, je sais pas où, il écrit ça, puis d'autres ont dit aussi, bon, il y a toute cette affaire-là. Toute cette affaire qui, en France, à mon avis, date, on va revenir très en arrière, de François Ier, n'est-ce pas, de l'Alliance turque. Il faut pas faire de peine aux alliés.
Bon. C'est intéressant.
Je pense que ça vient de là. Il n'y a aucun doute. Et depuis, on a cessé. Ça a continué. On n'est pas les seuls, hein. Même chez les Italiens, on trouve ce genre de choses. Et pourtant, eux, avec enlèvement au sérail, c'est pas mal non plus, là, bien sûr. Le Turc est toujours un brave bonhomme qu'on peut tromper comme on veut. Ou à peu près. Il y a tout cet aspect-là. Et puis, ensuite, alors, il y a la charge anticolonialiste. On a lié de très près l'esclavage à la colonisation. Colonisation aux Antilles uniquement, parce que ailleurs, ça n'a pas été tout à fait le cas.
N'est-ce pas ? C'est celle qui l'a supprimé, même.
Mais ailleurs, c'est celle qui l'a supprimé. Donc, l'anticolonialisme, la condamnation de... ça a chargé contre les Français, énormément. Énormément, et on a, à ce moment-là, minimisé tout ce qui était autre. Et ma première révolte, si l'on peut dire, ça n'était pas terrible, c'est quand même que, dans le même temps, n'est-ce pas, où nos manuels étaient gorgés de ce genre de choses, où des revues que je ne citerai pas ici publiaient une fois de plus les chiffres de la traite atlantique, dans le même temps, pas un mot sur les esclaves que moi j'ai fréquentés pendant 10 années, si j'ose dire, dans les archives de Gênes, de Florence, de Venise, qui arrivaient sans arrêt en plein 15e siècle. N'est-ce pas ? Toute la domesticité à Gênes était en partie orientale.
Qu'appelez-vous orientale ?
Il y en avait, mais ça c'est très complexe. Mais si vous voulez, c'est clair. Les Mamelouks, même origine que les Mamelouks.
Circassiens, Caucase.
Voilà. C'est les Tatars, etc. aussi, n'est-ce pas ? De la même façon, les marchands génois ou les gens qui faisaient des razzias ou qui achetaient tout ça, les hommes en Égypte, les femmes en Italie. On recevait très peu d'hommes, très très peu, pratiquement pas. Mais la domesticité...
Il y avait donc cette séparation très claire.
Ah, très claire. Ah oui. Si vous voulez, l'esclavage dont je parlais, que j'essaye de faire comprendre dans ces villes italiennes de la fin du Moyen-Âge, est un esclavage essentiellement féminin et domestique. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas ça. Il n'y a même pas de... On ne veut pas, là, je... Et ils étaient... Ils ont leur raison, je ne sais pas si on doit les approuver. Ils ne voulaient pas des morts parce qu'ils s'enfuyaient. Et là, les Catalans, ils avaient leurs problèmes, ils en avaient. Et ils ne voyaient pas arriver des Noirs.
Donc, cette population esclave s'est fondue dans la population italienne sans aucun problème.
Elle s'est fondue, elle s'était baptisée immédiatement. Dès que leurs enfants, il y en avait.
Là, il y a eu descendance.
Ah oui, parce que pour ce qui est du concubinage, là, vous pouvez être sûr. Moi, j'ai haut comme ça, j'avais rassemblé à un moment. Les notaires sont pas spécialisés, mais il y en a qui s'étaient sans doute amusés à ça. J'avais haut comme ça d'assurance faite par le maître d'une esclave au moment de l'accouchement pour que la femme ne perde pas la vie, n'est-ce pas ? Et alors, la prime était payée soit par le maître lui-même, soit par le gars du coin, l'artisan, qui, bon, évidemment, se reconnaissait le père de l'enfant. Et ce que je dois dire, ce qui m'a beaucoup frappé, là, j'ai eu 100-150 exemples.
Ce qui est considérable.
Ce qui est considérable. Et que la prime était peu élevée. Mmh. 2,5% de risque de mort à l'accouchement. C'est très peu. Donc les conditions d'hygiène ne sont pas... Ils sont de la famille. Et alors l'esclave, l'enfant est affranchi, et l'esclave est automatiquement, dans ces villes italiennes, affranchi à la mort du maître, à condition de servir la veuve toute la vie durant.
Et au bout de deux générations, comme ils sont blancs, tout le monde...
Mais ça, les Italiens ont étudié, ils ont même réussi à étudier, non pas pour Gênes, mais pour Venise, je crois, des conséquences anthropologiques.
Ce sont des études tout à fait intéressantes.
Ouais. Avec l'ADN, on arriverait peut-être à quelque chose.
Alors du côté musulman, avec les Mamelouks, on a affaire à tout à fait autre chose. Ce sont les hommes.
Oui, ce sont des hommes. Oui. Mais c'est les mêmes origines. Alors malheureusement, il y a eu une autre origine, qui n'est pas très brillante non plus. C'est au moment de la conquête turque des Balkans et de la conquête des provinces grecques. Ce sont toutes les filles grecques qui se sont sauvées. Mais elles n'avaient pas de passage. Donc elles ont payé leur passage par un engagement d'esclavage à des mercantis.
Leur passage vers l'Italie.
Vers l'Italie. Mm-hmm. Qui les revendaient en Italie et tombaient esclaves comme ça. Mm-hmm. Et on était là, quelque chose d'assez moche, je dois dire, parce que n'étant pas romaine, mais orthodoxe, on pouvait jouer là-dessus.
Oui, c'est tout à fait intéressant. Une approche philosophique totalement différente.
Ah, très curieuse, oui.
Très curieuse.
Vous savez que les esclaves à Venise, celles qu'on faisait venir alors directement des pays slaves, hein, parce que ça, ils trafiquaient beaucoup aussi, les slaves-là, celles qu'on faisait directement de slaves venus d'ailleurs, on les appelait les animés, parce que c'est les âmes qu'on sauvait par la conversion.
Alors, Jacques Hers, le terme de votre livre est au XVIe siècle. Que se passe-t-il à la fin du XVIe siècle, ou même au début du XVIe siècle, et comment cet esclavage musulman en terre d'Afrique va-t-il évoluer ?
Bien ça, je ne le sais pas trop, parce que je me suis arrêté là. J'ai voulu m'arrêter tout à l'heure, vous avez justifié la coupure, parce que j'ai voulu dire que voilà où nous en sommes quand seulement les Européens arrivent. N'est-ce pas? Donc, c'était la coupure chronologique pour moi, parce que d'abord, c'est un peu mon domaine de connaissance, au-delà du 16e.
La fameuse périodisation de l'histoire.
Oui, mais bon, c'est quand même vaste, hein, là. Mais oui. Je veux pas non plus tomber dans, à ce moment-là, des choses trop générales. Et j'imagine... Et ça, vous prenez le relais, j'imagine, Bernard Lugan, j'imagine que ça n'a fait que croître et empirer, n'est-ce pas, bien entendu, jusqu'au travail des colonisateurs français et anglais. Anglais surtout. C'est quand même les Anglais qui ont lutté le plus et le plus tôt.
Oui, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un déplacement des champs de la traite. Et on va constater de plus en plus que la traite musulmane de l'Afrique occidentale va diminuer. Probablement avec l'affaiblissement d'ailleurs de l'État marocain.
Oui.
Et avec l'anarchie qui va se développer dans tout le Maghreb, et l'on va voir de plus en plus les routes de l'Afrique orientale prendre de plus en plus de l'importance. Des questions d'auditeurs, Victoria, qui nous arrivent.
J'ai lu qu'en Corse, on mettait des ruches sur les toits lors des débarquements morts très bruyants. Les abeilles sortaient des ruches et les morts se sauvaient.
Non, pourquoi pas?
Il y a une question pour M. Lugan et M. Hers. À propos de l'esclavage, avez-vous lu le dernier livre de Jean Sevilla, journaliste au Figaro Magazine, sur l'esclavage, sur la colonisation, sur le bilan colonial? Il reprend mot à mot vos livres, enfin les livres de M. Lugan, sans le citer.
Oui, enfin, je suis bien embêté, là, une question qui arrive comme ça. oui, c'est une question bien embêtante. Oui, effectivement, je le sais, parce que j'ai reçu de très nombreuses lettres de lecteurs qui m'avaient fait la même remarque. Oui, effectivement. Oui, enfin, c'est un livre qui est intéressant, mais qui dénote une curieuse méthode historique. Jean Sevilla reprend à peu près 10 thèmes de désinformation historique. Il les traite d'une façon tout à fait intéressante. La croisade, le Moyen-Âge, l'esclavage, la colonisation, le bilan colonial. Et pour ce qui est de mon domaine, eh bien, je constate qu'il puise aux meilleures sources, puisque ces chapitres sont directement inspirés de mes travaux. Et on en retrouve des passages entiers, mes chiffres, mes références, etc. Le seul problème, c'est qu'il ne me cite pas. Il ne me cite pas. Ou la seule fois où il me cite, c'est d'une manière annexe pour se mettre à l'abri de tout proche de plagiat. Alors, nous sommes là, véhément, face à une méthode classique du journaliste qui pille le travail universitaire, les universitaires qui travaillent de longues années et qui voient leur travail pillé, ce qui, en soi, est une bonne chose, parce qu'il faut que la vulgarisation se fasse, mais il y a tout de même un minimum de courtoisie, et le minimum de courtoisie, c'est de citer les auteurs chez lesquels on a emprunté. Alors, dans le cas de Sevilla, eh bien, tout vient de chez moi, et je ne suis pas cité. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que Jean Sevilla travaille au Figaro Magazine, et Jean Sevilla sait très bien que j'ai fait mettre en examen son patron, Monsieur de Chaise-Martin, qui est le directeur du Figaro Magazine, et il sait très bien que s'il me cite dans son livre, comme il doit me citer, parce que ces chapitres sont entièrement repris de mes livres, il risque des ennuis. Donc, je lui pardonne tout à fait, parce que comme c'est son gagne-pain qui est en jeu, je ne veux pas la mort du pêcheur. Moi qui suis un homme libre, étant universitaire et n'ayant pas de patron, je peux comprendre quel est son raisonnement. La seule chose, c'est que je constate que certains journalistes de droite fonctionnent comme les journalistes de gauche, et je constate que cette profession est décidément bien malade. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire que cela. Victoria, d'autres questions d'auditeurs ?
Un auditeur, il existe bien une descendance des anciens esclaves noirs, notamment dans le sud algérien, à Timimoun. À Timimoun, par exemple, on les appelle les Aratins, descendants d'esclaves, les Touaregs.
Oui, mais tout à l'heure, nous parlions des villes musulmanes d'Orient, essentiellement, c'est-à-dire des centres acheteurs. Là, il est entendu qu'aux marges, il y a des mélanges de populations.
Oui, alors, le problème, c'est une question fondamentale. Qui étaient ces Noirs qui vivaient dans le Sahara? L'historiographie est partagée. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, ou bien des descendants d'esclaves, ou bien une autre hypothèse qui, pour moi, est beaucoup plus intéressante, les descendants du premier fonds de peuplement noir saharien. Parce que n'oublions pas qu'il y avait trois fonds de peuplement au Sahara. Nous en parlerons dans la troisième partie de l'émission tout à l'heure. Dans le Sahara, avant l'assèchement, il y avait au nord les proto-berbères. Dans la période moins 10 000 jusqu'à l'époque romaine, il y avait au nord les proto-berbères, ensuite les berbères. Et il y avait deux types de populations noires. Il y avait les grands pasteurs noirs, qui sont les ancêtres des populations de l'Ouest africain, comme les Peuls, et il y avait des agriculteurs noirs. Et une des hypothèses est que les pasteurs noirs se sont repliés vers le sud, mais que sont restés dans les oasis un certain nombre d'éléments de population des anciens agriculteurs noirs. Alors les études sur l'ADN nous permettront d'en savoir plus. Elles sont en cours, d'ailleurs. Je pense que dans les années qui viennent, nous allons avoir des renseignements sur la question. D'autres questions pour Jacques Herz, Victoria?
Monsieur Jacques Herz traitera-t-il du même sujet le 1er octobre? Non,
Que se passe-t-il le 1er octobre, Victoria?
Oui, alors allez-y pour les...
Allons-y.
Le 1er octobre, monsieur Jacques Herz donnera une conférence sur le thème « Les diverses lectures du règne de Louis XI ». Ce sera donc le mercredi 1er octobre à 20h30 à la Maison des Mines, salle Pierre-Nicole, 270 rue Saint-Jacques dans le 5e, métro Port-Royal ou Luxembourg, entrée 7 euros. Il y aura également une signature de ce livre à la librairie France Livre, rue du Petit Pont, samedi prochain, 27 septembre, à partir de 15h.
Alors, l'adresse rue du Petit Pont...
C'est au début, c'est au 4 ou au 6.
Du livre sur les négriers interdits cela, nous allons... Alors, à quelle heure, Victoria?
C'est à partir de 15h.
Bien. Alors, nous rappelons le livre de Jacques Herz. Donc, de Jacques Herz, Les négriers en terre d'islam. La première traite des Noirs, 7e, 16e siècle, chez Perrin, dans la collection Pour l'Histoire. Un livre qui a 314 pages et qui coûte 22 euros. Jacques Herz, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est toujours un immense bonheur que de vous recevoir, un bonheur trop rare. Ah, oui. Et écrivez votre prochain livre, et même avant, nous vous recevrons bien volontiers. À très bientôt, Jacques Herz. Bonsoir. Et une pause musicale, chers auditeurs, avant de passer à la seconde partie de l'émission.
И Тебе славу осилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Ce morceau musical que vous venez d'entendre est un morceau que nous avons déjà passé plusieurs fois, mais dont je ne me lasse pas. C'est la grande liturgie orthodoxe serbe, le Requiem orthodoxe serbe de Stéphane Mokranjac, collection Jade. Nous en reparlerons et nous repasserons des extraits tout à l'heure. Seconde partie de l'émission que nous allons consacrer avec Dominique Vénère à la Nouvelle Revue d'Histoire. La Nouvelle Revue d'Histoire qui publie son numéro 8, septembre-octobre 2003. Et ce numéro 8 est un numéro qui est essentiellement consacré à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est-elle terminée? Nous allons très largement revenir sur ce dossier tout à l'heure. Mais ce dossier n'est pas le seul contenu dans la revue. C'est un numéro qui est très riche. Excessivement riche, avec notamment un portrait entretien tout à fait passionnant de François Chamou sur la Grèce. Un dossier tout à fait intéressant également sur Hérodote. Un article passionnant sur Sparte, voyage autour d'un mythe. Un article sur le champ du signe de la noblesse. Un article sur Cadoudal, terroriste ou héros. Un article qui me passionnait également sur Baden-Powell, l'inventeur du scoutisme. Un article tout à fait intéressant sur un personnage qui a tout à fait marqué une époque et ma jeunesse, ma prime jeunesse militante, prime jeunesse à l'éveil politique, Sixtier Vignancourt. Et on en parle peu de cet homme qui était tout à fait extraordinaire par ses talents de plaidoirie. On a tous encore en tête la plaidoirie pour le général Salan. Sixtier Vignancourt, un article qui a pour titre « Sixtier Vignancourt, un monstre sacré ». Un article passionnant sur Armin Müller, etc., etc., etc. Et un article, bien sûr, de Jean Mabir sur la collaboration, des dossiers sur les livres, etc. Alors, Dominique Vénère, une richesse considérable dans cette table des matières de la Nouvelle Revue d'Histoire.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et une richesse qui est tout à fait intéressante dans la mesure où cette richesse n'écrase pas le dossier principal. Vous réussissez à le tour de force, à la fois, de consacrer un dossier à une question fondamentale, essentielle, centrale, qui est la guerre d'Algérie 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, et les dossiers fondamentaux que vous consacrez en plus de cela ne viennent pas, eux non plus, écraser ce sujet. Donc un mélange tout à fait agréable entre l'approfondissement d'un grand dossier et des éclairages ponctuels sur tel ou tel thème. Alors, j'aimerais, Dominique Vénère, que nous revenions directement au cœur du sujet. La guerre d'Algérie est-elle terminée? Alors, c'est une question que je pose à nos invités ici. Est-elle vraiment terminée, la guerre d'Algérie?
C'est évidemment la question que l'on peut se poser. Et, si l'intitulé de ce dossier... Et celui-là, c'est sans doute que parmi ceux qui ont contribué à ce numéro, à ce dossier, nous pensions que la guerre d'Algérie n'était pas tout à fait terminée. Mm-hmm. Alors, en quoi n'est-elle pas terminée? Bien entendu, ces traces perdurent, des traces qui sont polémiques, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie n'est pas encore passée dans le domaine de l'histoire. On ne traite pas de la guerre d'Algérie d'une façon générale d'un point de vue historique et dépassionné, mais la guerre d'Algérie reste un sujet passionnel et pour cause. C'est un entre guillemets enjeu de mémoire qui est abondamment utilisé par tel ou tel qui veulent démontrer quelque chose. C'est ainsi que depuis 2 ans maintenant, d'une façon récurrente, des dossiers sortent dans la presse sur le thème de la torture, etc., afin de créer un lien, une analogie forte entre guerre d'Algérie et un mauvais comportement supposé des soldats français pendant cette guerre. Alors, cela va dans le sens, évidemment, de la culpabilisation qui est à la mode et qui imprègne toute une partie du monde médiatique. La guerre d'Algérie n'est pas terminée non plus dans la mesure où le boulet dont le général de Gaulle voulait libérer la France, ce boulet dure et perdure de façon même amplifiée. L'immigration algérienne est une des conséquences de la fin de la guerre d'Algérie. Il y avait à la fin de la guerre d'Algérie, je crois, 350 000 travailleurs algériens immigrés en France. Aujourd'hui, ils sont évidemment infiniment plus, et ils posent tous les problèmes que l'on sait de toutes sortes et de façon constante. Donc, c'est une des suites qui montre que ce conflit, en ce domaine non plus, n'est pas terminé. Les relations bizarres que l'on entretient avec l'État algérien, où la France est une sorte de vache à lait permanente de ce curieux État, montrent également que cette guerre ou ses suites ne sont pas terminées. Et puis enfin, l'histoire n'est jamais terminée. L'histoire de la guerre d'Algérie, ce n'est pas celle d'un événement fermé, mais c'est un événement important pour nous Français, notamment dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire récente, mais c'est un événement qui prend sa place dans la suite de toutes sortes d'événements. C'est un événement qui prend sa place dans la longue histoire du flux et du reflux de part et d'autre de la Méditerranée, de ceux qui sont en Afrique et de ceux qui sont en Europe, et qui n'ont pas cessé au fil du temps de venir, d'être conquérants, d'être conquis. Ce fut une période récente, extrême, douloureuse, ô combien, mais qui prend sa place dans ce flux et dans ce reflux. Et c'est une histoire qui n'est pas terminée, parce que l'avenir que nous ignorons ne correspondra certainement pas à ce que nous voyons aujourd'hui.
Ce que vous dites est parfaitement illustré par l'histoire que vous racontez dans la revue de Ponce de Balaguer en 1541. Pouvez-vous en dire deux mots pour nos auditeurs?
En deux mots, c'est l'histoire de ce débarquement tenté par Charles Quint à Alger.
Je me tourne vers Jacques Hers. Qui...
débarquement fortement compromis par une tempête qui a contraint l'empereur à rembarquer. Mais avant le rembarquement, l'un des chevaliers espagnols, Ponce de Balaguer, est allé planter sa dague dans la porte Babazoum d'Alger en disant « Nous reviendrons ». Et effectivement, nous, c'est-à-dire les Européens, sont revenus en 1830.
Oui, qu'est-ce que trois siècles à l'échelle
de l'histoire ? Qu'est-ce que trois siècles ? L'histoire n'est jamais terminée.
Sauf pour les peuples qui perdent leur propre mémoire.
Certes, et nous nous efforçons évidemment de raviver la nôtre.
Dominique Vénère, comment ce dossier sur l'Algérie a-t-il été conçu? Quels sont les points forts de ce dossier, selon vous?
Alors, nous sommes efforcés de distinguer. Bon, il n'était pas possible, évidemment, de tout aborder. Mais je crois que nous avons abordé beaucoup de points importants. Ceux, en tout cas, qui peuvent aujourd'hui, qui sont discutés, qui sont éventuellement contestés et sur lesquels nous sommes efforcés, en faisant appel à de bons spécialistes, des historiens, bons connaisseurs de leur sujet, nous sommes efforcés d'apporter des éléments de réponse. Alors tout d'abord, il fallait déblayer un petit peu le cadre préalable même à la guerre d'Algérie. Nous ne sommes pas remontés à la conquête de l'Algérie, c'est en soi un sujet, c'est peut-être une chose que nous aborderons un jour, mais il était nécessaire de rappeler succinctement ce qu'avait été l'Algérie avant la France. C'est un un simple rappel, c'est un article de Philippe Conrad. Nous avons abordé ensuite, en partie, l'histoire du mouvement nationaliste algérien, qui est à l'origine, évidemment, du soulèvement de 1954 et de la guerre d'Algérie. Nous l'avons abordé à travers la lutte entre le MNA et le FLN, entre l'un des pères fondateurs du nationalisme algérien qui était Messali Hadj et qui ultérieurement a été dépassé par des éléments plus jeunes et plus entreprenants qui ont été les fondateurs du FLN. Alors c'est une histoire qui est intéressante à tout point de vue, elle est intéressante historiquement, elle est intéressante pour une autre raison. À partir des années 56, 57, 58, le mouvement nationaliste algérien a connu une guerre intérieure, une guerre dans la guerre, dont on parle rarement, qui est peu connue, mais qui fut importante, à la fois en Algérie et en France, dans la collectivité des travailleurs immigrés, où la présence des messalistes était traditionnellement très importante. Et les frontistes se sont efforcés, par évidemment les moyens de terreur classiques, se sont efforcés de prendre en main cette population et d'évincer les messalistes. Cela s'est fait d'une façon extrêmement pugnace, violente, etc. En Algérie même, subsistait une présence messaliste assez importante, y compris des maquis qui étaient messalistes. Cela fait partie de cette situation compliquée qui était celle de l'Algérie, qui montre que le FLN, vainqueur en 1962, et à qui la France, par l'intermédiaire de ses gouvernants de l'époque, a tout donné, cela montre que le FLN était loin de représenter l'ensemble des Algériens. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Il y avait au sein de ce qu'on appelle les musulmans, la communauté ou les communautés musulmanes, il y avait une multiplicité de possibles qui ne passaient pas nécessairement par le seul FLN. La décision politique de la France a été de tout accorder au FLN, mais il est intéressant historiquement de savoir qu'il y avait bien d'autres choses que le FLN, et cette autre chose représentait des cartes potentielles qui apparemment soit n'ont pas été utilisés, soit ont été mal utilisés. Voilà, c'est un élément historique.
Et à propos du messalisme, il faut également voir que l'essentiel des cadres du FLN sortaient du messalisme. Quasiment tous.
Tous.
Quasiment tous.
Tous.
Et que le premier FLN était une scission, en fait.
C'était le mouvement fondateur, c'était le mouvement le plus important, c'était le mouvement qui était indépendantiste, alors que il existait d'autres courants qui n'étaient pas favorables avant 1954 à l'indépendance. C'était vraiment le mouvement indépendantiste.
Sur quel axe doctrinal se séparaient le FLN et le messalisme?
Oh, ça n'était pas un axe. Ce n'était pas à proprement parler un axe doctrinal. Ce fut à l'origine tout à la fois une querelle de génération. Les messalistes, Messali lui-même étant le père fondateur, donc un homme déjà plus âgé, qui se trouvait sans doute bien dans la position qui était la sienne. C'était une sorte de patriarche du nationalisme, et il n'était pas. C'est un homme qui avait beaucoup combattu, qui avait été emprisonné à plusieurs reprises par les autorités françaises, etc. Mais il se trouvait assez bien dans une position confortable de père d'un nationalisme non combattant.
Statut du commandeur.
Et la jeune génération, elle souhaitait évidemment aller plus loin, ce qui était tout à fait logique, c'est-à-dire elle ne voulait pas Elle ne voulait pas en rester à ses positions de principe, mais dans l'ambiance de la décolonisation de l'époque, la jeune génération voulait provoquer en Algérie ce qui s'était passé, par exemple, en Indochine, c'est-à-dire susciter un mouvement violent en faisant usage des armes et qui, grâce aux armes, arracherait l'indépendance des mains de la France.
Alors vous étudiez longuement la guerre, ses phases, ses étapes et l'évolution vers l'impensable, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Qui aurait pu penser à la Toussaint 1954 que quelques années plus tard, que 8 ans plus tard, l'Algérie serait indépendante? Alors comment ces phases de la guerre peuvent-elles expliquer l'évolution vers l'indépendance?
Il subsiste un point qui, je crois, habituellement est relativement peu évoqué. C'est le contraste entre l'idée que les autorités françaises, d'une façon générale, se faisaient au début de ce que l'on appelle la rébellion, qui commence le 1er novembre 1954, et là, les autorités françaises ne comprennent pas quel type d'adversaire elles ont en face d'elles. Elles ne comprennent pas grand-chose à la stratégie qui sera appliquée par ces gens-là, par le FLN, alors qu'il y a une véritable stratégie.
Dès le départ.
Dès le départ. Parce que, évidemment, le 1er novembre 1954, ce que l'on appelle le soulèvement, ou l'insurrection, ça représente peu de choses. Il y a quelques assassinats, à commencer par l'assassinat célèbre, évidemment,
du caïd,
de l'instituteur Monroe, sa femme qui est violée, ça se passe dans les Aurès, c'est du caïd qui
essaie de les défendre,
qui tente de les défendre et qui est assassiné également. Par-ci, par-là, il y a quelques attaques de postes militaires, de postes de police. Il y a peu de choses. Dans les jours et dans les semaines qui suivent, quelques exactions continuent. Et les autorités françaises ont le sentiment que c'est une affaire sans gravité, qu'il sera peut-être possible de réduire sans trop de difficultés. Néanmoins, cette situation délicate et compliquée par la situation qui est celle de la Tunisie et celle du Maroc, où les mouvements indépendantistes sont forts et où la France est dans une phase de négociation pour accorder vraisemblablement l'indépendance à la fois à la Tunisie et faire cesser le statut du protectorat au Maroc. Et il est vraisemblable que cela aura des incidences importantes en Algérie. Néanmoins, le début de la rébellion n'est pas très important. Et puis, les opérations de ce qu'on appelle le terrorisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont à la fois des actions qui sont des actions symboliques, qui sont menées contre la présence française visible, ne serait-ce que couper une route, couper des poteaux téléphoniques, attaquer ne serait-ce qu'en tirant. Au début, les choses sont très faibles. On tire sur une maison forestière dans laquelle il y a un garde forestier qui se défend lui-même plus ou moins avec un fusil de chasse, etc. Il y a par-ci par-là de petites embuscades, peu de choses. Mais si l'on suit d'une façon systématique l'évolution sur un an, sur une première année, on perçoit une augmentation très nette, substantielle, tout au long de cette première année, c'est-à-dire entre novembre 54, novembre 55. Pourquoi? Parce que la stratégie voulue par l'équipe formatrice du FLN commence à payer. Cette stratégie, c'est celle du terrorisme. Terroriste, qu'est-ce que ça signifie dans le cas précis? Cela veut dire que on soumet la population musulmane d'abord, pas la population européenne. Dans un premier temps, elle est peu visée. C'est d'abord la population musulmane qui est visée, afin qu'elle passe sous le contrôle du FLN. C'est-à-dire qu'on la soumet à la peur. Et l'option est très... Le marché, en quelque sorte, est très simple. Les Français ne sont pas capables de défendre l'ensemble de la population, et pour cause. Alors que cette population peut, chaque nuit, être placée dans le bled, dans les mechtas perdus, etc., peut être menacée par la présence de quelques djennouds, de quelques felagas, qui n'hésitent pas, évidemment, à égorger, qui n'hésitent pas devant des violences terrifiantes. Et entre la violence terrifiante exercée par les felagas et une violence beaucoup plus mesurée et une protection très souvent absente qui est celle des Français, il est évident que la balance pèse progressivement de plus en plus lourd en faveur du FLN, en faveur de ceux qui utilisent ces moyens de violence. Bon, je simplifie, mais telle est la démarche qui est mise en place et qui est conçue de façon...
Et qui se met en place.
Intelligente. Oh, ben, ça commence dès le début. C'est les premières actions de novembre 54 vont dans cette direction-là. Et on voit au fil des mois ce genre d'opérations se poursuivre et se développer.
Et l'armée française n'est pas prête à l'époque à riposter à ce genre
de... L'armée française est très peu présente. Il y a en 1954 50 000 hommes qui ne sont pas aptes au combat, qui sont voués à des gardes statiques qui ne peuvent pas être libérés pour des opérations. Alors, on fait venir une division parachutiste, la 25e division parachutiste.
Qui vient d'où?
Qui vient de France.
Et on fait unité rentrée d'Indochine.
En partie, et en partie existant en France, on fait appel à quelques unités venant d'Allemagne. J'en ai fait partie personnellement, puisque je me trouvais en Algérie au tout début, et dans ce cadre-là, j'ai vécu cela de
donc
façon très directe.
Donc d'Allemagne, directement, d'Allemagne transportée en Algérie.
Transportée en Algérie, alors ça, ce sont des unités combattantes, mais ce sont des unités qui sont totalement inadaptées à l'action qu'on voudrait leur faire mener, d'abord parce que les renseignements font défaut, parce que l'entraînement qui est celui de ces unités, ne correspond absolument pas à l'action qui est exigée, parce que surtout...
L'équipement.
Mais surtout parce que on est en paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état de guerre, et on applique les règles qui sont celles de la paix.
Les règles de la gendarmerie.
Les règles de la gendarmerie, ce qui fait que dans les premières opérations, par exemple, auxquelles j'ai participé, nous étions toujours accompagnés d'un gendarme, parce que nous n'avions pas la possibilité, nous militaires, dans une situation de paix, nous n'avions pas la possibilité, par exemple, pénétrant dans une meshta, c'est-à-dire un village indigène, nous n'avions pas la possibilité de pénétrer dans les gourbis, dans les logements pour les fouiller, parce que les règles du temps de paix s'appliquaient. Il était nécessaire d'avoir une commission rogatoire. Alors, non
disposée. Les félagas devaient rire.
Ben, évidemment. Alors, ils ont eu de cette façon-là de grandes facilités dans les premiers temps. Alors, progressivement, au cours des mois suivants, les choses ont changé. Et la réaction de la part des forces françaises a été plus efficace.
Nous reprendrons cela après l'interruption de 7h30. Je repasse la parole et l'initiative à la régie.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous musical de 21h, série jazz. À 22h, les musiques de film avec Claudio. Et à 23h, un récital Aldo Ciccolini, les nocturnes de Chopin. Tout ça à partir de 9h ce soir. Et puis maintenant, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquetch, dirigé par Bernard Lugan. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Becquetch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct, mercredi 24 septembre 2003, de 18h à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit, de 2h à 5h, et dans la matinée, de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Becquetch, que je salue d'ailleurs parce qu'il doit être à l'antenne. Et ce journal, ce soir, a reçu Jacques Herse et nous sommes avec Victoria, Dominique Vénère et Philippe Conrad. Nous sommes réunis autour du thème de l'Algérie, qui est le thème central du dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire. Des questions d'auditeurs, Victoria. Alors,
sur l'Algérie, quand y a-t-il eu déclaration de guerre et par qui ? Je vous lis l'ensemble, si vous voulez, il y en a trois. Si la guerre d'Algérie vous semble terminée, il faut remarquer que l'Algérie n'est toujours pas indépendante. Et suite à la lecture du dossier sur l'Algérie, je conclus personnellement à de nombreuses erreurs des gouvernements français successifs. Quel est votre avis ?
Justement, le thème du dossier montrait que la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Notre auditeur n'a pas très bien saisi la totalité du développement de notre ami Dominique Vénère.
Oui, l'un des thèmes indirects que nous développons dans ce numéro, qui est développé dans un article, l'article de Jean-Pierre Perroncel-Hugo, qui est bien placé pour en parler, puisqu'il était correspondant du Monde, le journal Le Monde, à Alger dans les années qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie. Il a son article qui est plein d'humour et plein de vivacité, dit en substance, il serait temps que la France prenne son indépendance de l'Algérie. Voilà, alors c'est une thématique. Pour répondre à la première question de l'auditeur, il n'y a pas eu de déclaration de guerre au sens des déclarations de guerre d'autrefois. D'abord, le terme de guerre n'a jamais été admis sinon de façon récente par la France. Il s'agissait d'opérations de maintien de l'ordre, ce qui limitait d'ailleurs considérablement les possibilités d'action de la France. Et la déclaration de guerre, ce fut celle dans les faits et non pas dans les anciennes formes, ce fut tout simplement l'action menée contre la France et les Français par le FLN, par les Felaga, qui nous ont mis ou qui ont mis la France devant le fait accompli. Ce sont eux qui ont désigné la France comme ennemi. À partir de ce moment-là, la France et les Français se trouvaient contraints de se défendre et de riposter.
Allez-y, Victoria. C'est des commentaires. Enfin, il faut signaler l'intoxication par les films passés et repassés à la télévision, notamment sur Arte, tels que « Avoir 20 ans dans les Aurès », particulièrement infâme à l'égard de nos soldats.
Oui, la quasi-totalité, sauf rarissimes exceptions, des films qui ont été consacrés à l'Algérie. D'abord, la quasi-totalité, ce sont des films qui n'ont pas une grande valeur cinématographique, et ils sont, dans la quasi-totalité, tout à fait hostiles à la cause française et tout à fait favorables à la cause des ennemis de la France.
Et alors, un auditeur nous envoie une télécopie sur ce qui se passe dans son lycée. Le politiquement correct dans les lycées. Je suis enseignant dans un lycée public. J'ai proposé au proviseur d'apposer des affiches dans le centre de documentation et dans le hall des élèves concernant la journée nationale des harkis avec cette épitaphe. À la mémoire des 150 000 harkis massacrés par le FLN après le 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Niette catégorique du proviseur et de la documentaliste. Motif trop polémique. Remarque effarée du proviseur. Si je laisse afficher ça, j'ai 10 voiles de plus demain. À méditer.
Bien, voilà, en effet, la guerre d'Algérie n'est pas terminée.
Et oui.
Voilà comment un peuple perd ce qu'il est. Ce que nous racontait Jacques Hers tout à l'heure à propos de la conquête et d'autres formes de conquête.
Mmh, parfaitement.
Tout à fait. Alors nous sommes plein dans le cœur du sujet.
Oui, j'en ai encore un. Fin novembre 1954, un de mes amis officiers d'origine nord-africaine, commentant les événements des Aurès, se disait pessimiste pour deux raisons. La première, c'est qu'autrefois, quand un villageois signalait la présence d'un agitateur dans son doigt, le caïd répondait « j'aimerais qu'il n'y en ait plus ». Et quelque temps après, un villageois lui apportait la tête dans un sac. En 54, les caïds avaient fait des études de droit et envoyaient des chalougis la grande sacoche, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour arrêter l'agitateur. Bien entendu, vu de loin, il faisait chou blanc. La deuxième raison était que les autorités françaises avaient appelé au calme, sinon un grand malheur s'abattrait sur la région et la réaction était très molle. C'est encourager le développement de la réforme, me disait-il.
Bien, voilà un témoignage intéressant et plein d'humanisme. Alors, Dominique Venet, revenons à notre sujet central. Il y a tout de même un élément essentiel dans cette affaire algérienne, et c'est peu de le dire, c'est le rôle du général de Gaulle. Et sans revenir une fois de plus sur cette question, c'est tout de même important. Vous commencez votre article consacré au général de Gaulle avec la phrase suivante. Il était peut-être difficile de faire mieux, mais il était impossible de faire pire. Qu'entendez-vous par là ?
Bien, je crois que cette phrase résume la réalité et toutes les ambiguïtés de ce qu'a été la politique du général de Gaulle à partir de son retour au pouvoir en 1958. Oui, grandes ambiguïtés, ô combien, et toujours des interrogations. Il y a un certain nombre de travaux d'historiens sur la politique conduite par de Gaulle. Personnellement, je ne les ai pas trouvés satisfaisants et nous avons donc abordé dans les limites qui sont celles d'une étude de ce genre. Nous sommes efforcés d'y voir clair dans ce qu'a été la politique du général de Gaulle. D'abord, ce qu'étaient ses intentions initiales en 1958, eh bien, on ne le sait pas vraiment. Parce qu'il s'est tellement appliqué lui-même à brouiller les pistes que l'on n'y voit pas très clair. Donc, on est contraint de juger au résultat et de s'en rapporter aux faits disponibles. Sa politique s'est conclue par l'indépendance de l'Algérie, mais pas par la fin du problème algérien. Nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure. Effectivement, cette guerre n'est pas terminée. 40 ans après, le boulet est toujours là et même en pire à bien des égards. On prête ce mot au général de Gaulle d'avoir voulu l'indépendance de l'Algérie pour que Colombey reste Colombey les deux églises et ne devienne pas Colombey les deux mosquées. Mais aujourd'hui, on peut se demander si le souhait qui était le sien, ou si les méthodes qui ont été utilisées par lui étaient si bonnes, puisque les mosquées et les minarets se profilent évidemment à l'horizon. Cette politique, la politique du général de Gaulle, a été payée de souffrances infinies. Et en mesurant les paroles, mes paroles, de ce qu'il faut bien appeler des crimes d'État. C'est un crime, ou ce fut un crime, que la livraison des harkis au couteau du FLN, après les accords d'Évian et au moment de l'indépendance. Ce fut un crime... après les accords d'Évian et au moment de l'indépendance, que d'ordonner à l'armée de ne plus secourir et de ne plus protéger nos compatriotes en Algérie. Ce fut un crime que d'ordonner à la troupe, à Alger, de mitrailler la foule française pacifique le 26 mars 1962, 63 morts et tant de blessés. Ce fut encore un crime... que de mépriser le sort d'un million de pieds noirs, de Français d'Algérie, contraints de fuir l'épouvante, conséquence de la politique du général de Gaulle, Français d'Algérie qui en rien n'ont été protégés et en rien n'ont été secourus dans cette période atroce. Il faut dire que la grande équivoque de la politique du général de Gaulle a commencé dès le 4 juin 1958, c'est-à-dire lors de son premier voyage à Alger, alors que depuis deux jours, il avait reçu l'acquiescement de l'Assemblée nationale. Il était devenu chef du gouvernement de la France avec des pouvoirs étendus. Il disposait, il bénéficiait d'une popularité immense. Il a été ramené au pouvoir, chacun le sait naturellement, à la suite du soulèvement d'Alger le 13 mai 1958. Donc son retour au pouvoir était directement lié aux événements d'Algérie, à l'angoisse qui était celle des Français d'Algérie et à l'inquiétude de l'armée, qui craignait que les hommes politiques dans le dos de l'armée ne négocient, on ne savait pas très bien quelle solution politique avec le FLN. Donc, de Gaulle arrive à Alger le 4 juin 1958, devant une foule gigantesque, il prononce la parole ô combien illustre et qui a traversé le temps, « Je vous ai compris ». Je vous ai compris. Et cela, acclamé par cette foule immense qui croit dans cet homme. Comment ne pas le croire? Il est là en uniforme. C'est une légende vivante, le général de Gaulle, en 1958. C'est l'homme qui a dit non, n'est-ce pas, en 1940. C'est l'homme qui a dit non à la défaite, qui a dit non au renoncement. Donc c'est l'homme à qui on peut se fier. Si lui dit aux Français d'Algérie qu'il les a compris, si à Mostaganem il dit « Vive l'Algérie française », si à Oran il dit « Jamais nous ne partirons d'Algérie », etc., etc., comment ne pas le croire? Ce qui est étonnant, c'est que si son intention était d'aboutir à l'indépendance de l'Algérie, ce qui est étonnant, c'est d'avoir à ce point, d'emblée, dès le premier instant, proféré d'aussi solennels mensonges. Pourquoi ?
Peut-être ne connaissait-il pas l'ampleur de la catastrophe avant d'arriver au pouvoir, et peut-être je me fais l'avocat du diable, et peut-être était-il une fois au pouvoir au courant de dossiers qui faisaient que...
C'est un homme qui d'abord se tenait très qui était très averti de la situation politique, de la situation de l'Algérie, qu'il connaissait puisque il avait été en Algérie lui-même de l'été 1943 jusqu'à l'été 1944. Il connaissait cette situation. Il n'a pas cessé de la suivre ultérieurement, mais il savait que il y avait là quelque chose d'explosif dans la vie politique française notamment, qui pouvait peut-être lui permettre de revenir au pouvoir, et il en a profité, c'est en effet ce qui s'est produit. Suivant les interlocuteurs qu'il rencontrait avant le 13 mai 1958, il tenait des langages très différents. À ceux qui étaient des partisans de l'Algérie française, tel son ancien compagnon Jacques Soustelle, il tenait des propos qui étaient très favorables aux positions de Jacques Soustelle. À des interlocuteurs qui, eux, étaient partisans plus ou moins de l'indépendance, etc., eh bien, ils semblaient abonder dans leur sens. C'est-à-dire que...
Double langage,
ils s'adaptaient aux interlocuteurs. Que pensait-il lui-même? Cela reste, dans une certaine mesure, un mystère. Il reste un point, et nous allons suivre l'évolution même de sa politique et de ses paroles. Il reste un point majeur, c'est la tromperie, vraisemblablement. En revenant au pouvoir en 1958, il voulait se libérer, comme il l'a dit, du boulet algérien.
Pour se tourner vers l'Europe.
Comment s'en libérer? Certainement par une sorte d'indépendance. Ce qu'il ne savait sans doute pas, c'est comment les choses allaient se passer. Oui, ça certainement. Mais le but qui était le sien, certainement, devait être l'indépendance. Mais alors pourquoi cet énorme mensonge qui va durer, parce que les mots qu'il a prononcés à Alger le 6 juin 58, il va continuer à les prononcer. Non seulement il va le faire officiellement, mais il va faire plus que ça, il va le faire dans les messages personnels et notamment dans les messages qu'il envoie au commandant en chef en Algérie, qui est le général Salan. Le 24 octobre 1958, il écrit personnellement au général Salan, commandant en chef, qui avait tant fait pour le ramener au pouvoir. Je vais le citer parce que la lettre est extraordinaire. « Mon cher Salan, tout va vite en ce moment, au moins en apparence, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. » L'ensemble de la nation française fait maintenant bloc sur quelques idées simples. On ne doit pas lâcher l'Algérie. Cela étant, on pourrait voir un jour ou l'autre l'organisation Ferataba, c'est-à-dire le FLN, demander à envoyer des délégués dans la métropole. En pareil cas,
ces délégués ne verront que les représentants du commandement militaire. Ils ne seront admis à parler que du cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu comportera nécessairement la remise des armes à l'autorité militaire. Je vous dis cela à vous seul, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Naturellement, ne le répétez pas.
C'est extraordinaire.
Le général Salan qui reçoit cette lettre, dans ces termes-là, le 24 octobre 58, qu'est-il en droit de se dire ? Il a le sentiment que le chef de l'État, ou celui qui va devenir peu après le chef de l'État, lui fait part de ses intentions les plus secrètes. De Gaulle le fait sous le sceau de la confidence. Pourquoi cette démarche ?
Pourquoi, justement ?
Alors, ce message est évidemment destiné à tromper Salan. Pourquoi tromper Salan ? Pourquoi enfermer le commandant en chef en Algérie ? Tiens, ben c'est pas quelqu'un de secondaire. Pourquoi l'enfermer dans un mensonge aussi délibéré ? Alors, mettons de côté tout aspect moral dans cette question. Ne regardons que l'efficacité politique. Et posons-nous cette question. Est-ce que cette conduite du général de Gaulle est une conduite politiquement sage ? Comment Salan va-t-il réagir un peu plus tard en découvrant qu'il a été trompé, en découvrant qu'il est victime d'un cynisme d'une telle ampleur ? Nécessairement, c'est là l'origine de la révolte future du général Salan et de la révolte de l'armée. Et on se dit que l'homme qui a agi de cette façon n'était peut-être pas le génial esprit politique que l'on dit habituellement. Parce que procéder de la sorte, c'est une façon de procéder. Mais, encore une fois, est-ce une façon sage ? Est-ce une façon habile ? Ne fallait-il pas s'efforcer, au contraire, puisqu'il avait en vue l'indépendance de l'Algérie, ne fallait-il pas, au contraire, s'efforcer, rencontrant le général Salan ou tel autre, d'essayer de le convaincre du bien fondé de ses objectifs et son intention ? Non, il enfonce un homme comme Salan dans le mensonge, et alors, évidemment, tous les autres. Et pourtant, on sait par les confidences qu'il fait à la même époque, par exemple à Alain Perfit, qui les a publiées ultérieurement, on sait qu'il ne se fait aucune illusion sur ce que doit être l'avenir de l'Algérie. Citation du livre de Perfit, c'est une conversation avec le général de Gaulle le 5 mars 1959. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, lui dit de Gaulle. Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très intelligents. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se séparent de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40 ?
C'est de Gaulle qui dit cela.
C'est de Gaulle. C'est pas mal vu, en effet. Mais alors pourquoi avoir parlé de Français à part entière à Alger le 6 juin 58 ? Pourquoi proclamer le contraire ensuite avec tant de force ?
Pour arriver au pouvoir.
Oui, pour arriver au pouvoir. Mais la conduite ultérieure, encore une fois, était-elle une conduite sage ? Alors, oui, en 58, sans doute, ne savait-il pas comment il allait procéder ? Il connaissait le but, ses propos à Perfit de mars 59 le montrent de façon claire, ça montre à l'évidence qu'il avait une certaine vision de l'Algérie et de l'impossibilité de transformer les musulmans d'Algérie en français. Bon, très bien. Mais comment faire pour arriver au, comment faire pour arriver au résultat. Alors, je pense que il faut reprendre les choses à la source. Quelles étaient effectivement les idées de De Gaulle? De Gaulle n'est pas devenu un anticolonialiste par culpabilité. Il est devenu par, on peut dire, clairvoyance et conviction. Dans sa jeunesse, à l'époque de la revanche, il appartenait à la droite nationaliste, qui était hostile à la colonisation républicaine, et qui pensait que les frontières de la France étaient sur le Rhin et non pas sur le Niger. Donc il était hostile à la colonisation. C'était un nationaliste, le général de Gaulle, mais pas un impérialiste, c'est-à-dire qu'il pensait que chaque peuple avait sa propre vocation et devait pouvoir disposer de lui-même. Il voyait aussi que la France, après 1945, n'avait plus l'énergie nécessaire, sans doute, pour un destin impérial. Il comprenait que le monde avait changé, qu'il fallait trouver des solutions. Cela dit, la question algérienne ne ressemblait à aucune autre, parce qu'il y avait là-bas un million d'Européens, un peu plus même, qui avaient des droits. Ce pays l'avait fait en grande partie, et ils avaient le droit tout simplement de vivre en paix sur une terre qu'ils avaient fécondée. Et ça, De Gaulle le savait aussi. Il y a un certain nombre de déclarations avant 58 qui montrent qu'il est conscient de certaines réalités de problèmes algériens. Et puis il y avait aussi un grand nombre de musulmans qui, pour des raisons multiples, avaient pris le parti de la France. Que faire de ces gens-là? En dehors de les vouer au couteau des égorgeurs, comme ce sera le cas pour les harkis en 1962. Là aussi, il y avait des solutions diverses. L'une d'entre elles a été esquissée par le général Challes, par exemple, qui était de constituer un grand parti des musulmans français, un parti armé, en s'appuyant sur les harkis, qui étaient 150 000 en 1959, alors qu'en face, il n'y avait que 30 000 combattants du FLN. 150 000, 30 000, c'est impressionnant. Et le général Challes, qui n'était pas un jacobin, disait il peut y avoir un avenir, évidemment pas du tout transformer ces gens-là en Français comme les Français de France, mais un avenir dans un cadre fédéral. Pourquoi pas? Ça faisait partie des possibilités ouvertes.
La solution Napoléon III.
Oui, mais bon, cette possibilité n'a pas été du tout prise en compte. Ce que l'on voit, en revanche, à partir du moment où, de façon explicite, c'est-à-dire 1960, le général de Gaulle veut aboutir à l'indépendance de l'Algérie, à partir du moment où il prononce officiellement le mot de République algérienne en disant « on ira vers une République algérienne ». Il est en négociation, en quelque sorte, avec le FLN pour aboutir à cette indépendance. D'abord, pourquoi avoir pris comme seul interlocuteur le FLN? Ensuite, dans ce duel qui l'oppose au FLN, le général de Gaulle ne va jamais imposer sa stratégie. Il n'obtiendra aucune compensation et à suivre les négociations, on s'aperçoit qu'il ne maîtrise rien. On a le sentiment qu'il a le désir d'en finir et d'en finir à n'importe quel prix. Et de concession en reculade, il va finir par tout abandonner. Lors des ultimes négociations d'Évian, eh bien, il cède sur tout. Il cède sur les préalables qu'il avait lui-même fixés, c'est-à-dire la remise des armes par le FLN. Il cède sur le principe de la discussion avec les autres tendances des Algériens. Il cède sur le Sahara dont il fait cadeau à l'Algérie. Il cède sur la protection des Français qui ne seront pas protégés. Et cela se termine, comme on sait, dans la déroute et l'ignominie, en brisant les Français avec la collaboration du FLN. Là, il y a un article que nous publions.
Et du Parti communiste.
Et du Parti communiste en France, mais du FLN en Algérie, parce que la résistance des Français d'Algérie sera brisée, notamment par une action concertée entre les forces de l'ordre françaises, police, gendarmerie, etc., et le FLN. Il y a, à ce sujet-là, dans notre dossier, un article de Jean Monneret qui a étudié cette question, qui est terrible et qui fait le point sur cette affaire et notamment l'affaire terrible de l'enlèvement des Européens d'Algérie à partir des accords d'Évian, enlèvements qui se sont faits alors que l'armée avait l'ordre de ne plus intervenir et de ne protéger en rien les Français d'Algérie. On se demande finalement si dans cette affaire, les seules victoires remportées par le général de Gaulle n'ont pas été remportées par ses compatriotes.
Sur ses compatriotes.
Lors d'un des conseils de ministres, des ministres qui a suivi les accords d'Évian, la chose est rapportée par Pierre Flimelin dans ses mémoires, sur la question d'un ministre, Jacquinot, qui demande si les Français seraient protégés par l'armée française après l'indépendance. Le général de Gaulle répond, je cite ses paroles, « Il n'en est pas question, il n'est pas question de protéger les Français. Après l'autodétermination, le maintien de l'ordre public sera l'affaire du gouvernement algérien. Ce ne sera plus la nôtre. Les Français n'auront qu'à se débrouiller avec ce gouvernement. »
Ah ben bravo. Bien, écoutez, c'est tout à fait édifiant. Alors, cette question de Gaulle n'est pas la seule question que vous traitez dans ce sommaire consacré à l'Algérie. Une autre question qui est tout à fait dramatique, la question du massacre des Harkis, qui est traitée par le général Maurice Fèvre. Vous disiez la question des Français disparus en Algérie. La question également de la diplomatie de la joue tendue entre la France et l'Algérie, un excellent article de Régis Constant.
Ce qui a suivi 1962, c'est-à-dire de 62 à aujourd'hui.
Alors, je renvoie donc au numéro 8 de la Nouvelle Revue d'Histoire, dont le dossier principal est consacré à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est-elle terminée? Alors, la Nouvelle Revue d'Histoire que l'on trouve en vente dans tous les kiosques, et si jamais la Nouvelle Revue d'Histoire n'était pas disponible en kiosque, il serait possible, Dominique, de la commander à l'adresse de la Nouvelle Revue d'Histoire.
88 avenue des Ternes, 75 017 Paris. 88 avenue des Ternes, 75 017 Paris.
Des questions d'auditeurs, Victoria?
Oui, une auditrice nous dit « Ferhat Abbas faisait partie de la bourgeoisie locale et n'était pas FLN ».
Non, à l'origine, il n'était pas FLN, il n'était même pas partisan de l'indépendance de l'Algérie. Il dit, il y a une déclaration célèbre de Ferhat Abbas disant « J'ai recherché dans l'histoire la nation algérienne et je ne l'ai jamais trouvée ».
La guerre d'Algérie n'est pas terminée, vous avez raison. Dans un journal, je viens de lire, le président Bouteflika a décidé de rechercher les disparus de la guerre d'Algérie. Disparus musulmans, cela va de soi, les disparus européens, on s'en moque. Je vous rappelle qu'on trouve à la FNAC un film intitulé « Les Centurions » avec Anthony Quinn, Alain Delon et Michel Morgan. Il est excellent sur le plan de la reconstitution historique. C'est un ancien d'Algérie qui vous le dit. Et il dit que tous les autres films sont hostiles à la France.
Oui, il est actuellement visionné par les troupes américaines en Irak.
Je suis pied noir, nous dit cette auditrice. Malgré tout, en 1958, les pieds noirs n'étaient pas franchement pour De Gaulle.
Bah, ils avaient quelques raisons, effectivement, de ne pas l'être.
J'ai cru très longtemps, nous dit cet auditeur, que la violence avait eu lieu pour l'essentiel à partir des années 58-60. J'étais historiquement correcte. En consultant le Quid, je me suis aperçue en une journée d'août 1955 dans la Constantinoise, 170 Européens sont massacrés, dont un tiers d'enfants. À noter que Benjamin Stora, ex-membre de l'OCI Groupe Lambert, n'en parle guère. Pas plus qu'Enrico Macias, tous deux de cette région. Vers 1969, Boumédienne disait « Nous occupons la France grâce au ventre de nos femmes ». Ainsi, derrière le voile de Sherazade, n'est-il pas là le fameux trou de la sécu ?
Nous vous vaincrons grâce au ventre fécond de nos femmes. Oui, c'est ça la formule exacte de Boumédienne.
Quel était le gouvernement en place de 54 à 58 et qu'a-t-il fait ?
Les gouvernements sont trop longs,
Oui. Comment peut-on évaluer l'aide apportée par les Russes au FLN ? Connaissez-vous l'Algérie médicale de janvier 1957 L'Algérie médicale de janvier 1957.
Oui, c'est un remarquable
par
document.
Jean-Pierre Rondeau.
Bien.
Et puis alors, Serge de Beketch nous téléphone.
Ah,
Alors il nous dit, oui, j'écoute l'émission. Ah. Je me régale. Et je vous salue tous.
Eh bien voilà, comme on dit en Belgique, c'est... lui réciproquons notre salut.
Salut réciproque.
Et on pourrait en profiter pour rappeler aux auditeurs qui ne se seraient pas encore abonnés à son journal qu'ils peuvent le faire en adressant leur chèque d'abonnement de 110 euros, libellé à SDB, 4 places Franz Liszt, Paris, 75-010, Paris. Ils peuvent aussi lui demander un exemplaire du dernier numéro en lui adressant un carnet de timbres.
Ah, un carnet de timbres.
J'enchaîne sur les annonces, allez, si les annonces. Vous voulez. Alors, un appel au secours d'abord pour le village d'enfants de Riaumont. Deux conférences par le père Argouache. Le combat d'un village d'enfants. Le vendredi 26 septembre à 20h à Paris, à la chapelle du Sacré-Cœur, 20 rue Gerbert, dans le 15e arrondissement, métro Vaugirard. Et une autre le samedi 27 à 15h à Marly-le-Roi, salle Saint-François de Sales, à l'Institut du Christ III, souverain prêtre, 47 terre rue de l'Abreuvoir, 78160 à Marly-le-Roi. Suite à ces deux conférences, un film sera projeté, le flambeau sera transmis.
Il faut absolument aider l'œuvre admirable de Riaumont et du père Argouarque, qui est un ami et qui fait un travail absolument admirable.
Et si vous voulez envoyer des chèques, vous les libellez à Sainte-Croix de Riaumont et vous les adressez au village d'enfants de Riaumont, boîte postale 28, 62801, Liévin-Cédex. Vous pouvez éventuellement téléphoner au 03 21 28 32 09. Je rappelle la grande fête champêtre qu'organisent Roger Olindre et le Cercle National des Combattants à Neuvy-sur-Barangeon, dans le parc du Château, le dimanche 28 septembre, à partir de 9h30. Entrée, bal et repas coûtent 35 euros. Il est maintenant trop tard pour s'inscrire. Les retardataires peuvent tout de même venir. Ils pourront régler sur place, des guichets sont prévus.
Bien.
Et pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au 01 40 59 07 66. Je rappelle, pour l'histoire, qu'est-ce que c'est pour l'histoire? C'est une association.
L'association
pour l'histoire. Présidée et créée.
Par Philippe Conrad.
Voilà.
Bien connu de nos services.
Jacques Hers, donc, donnera une conférence sur le thème Les diverses lectures du règne de Louis XI le mercredi 1er octobre à 20h30 à la Maison des Mines, salle Pierre-Nicole, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e. Métro Port-Royal ou Luxembourg, entrée
au choix.
7 euros. Signature également du livre « Les négriers en terre d'islam dont nous venons de parler » à la librairie France Livre, rue du Petit Pont, samedi prochain, 27 septembre, à partir de 15h.
Signature de Jacques Hers.
Bien sûr, vous n'avez pas signé ces livres tout de même.
Non, mais il faut préciser que tout de même, c'est Jacques Hers, du monde.
On ne change pas. Les conférences de Saint-Germain vous proposent une conférence d'Olivier Pichon pour en finir avec le mammouth à la salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, le jeudi 2 octobre à 20h30. Prix de l'entrée 6 euros, 4,50 euros pour les étudiants et les chômeurs. Ben.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Chers auditeurs, je lance une devinette. Quelle est l'origine de ce chant ?
Pitié pour les téléphonistes.
D'accord. Bon. Eh bien, nous venons d'entendre un chant berbère, chant kabyle du Dur-Jura, par Marguerite Taos-Amrouche, un superbe chant, un superbe recueil, musique du monde. Et pourquoi, ce chant berbère ? Nous en écouterons d'autres tout à l'heure, parce que nous allons parler précisément des berbères, à l'occasion de l'apparition du numéro 41 de l'Afrique réelle. Et ce numéro 41 est un numéro particulier, n'est-ce pas, Philippe Conrad ?
Qui est le numéro du 10e anniversaire de cette passionnante revue.
10 ans déjà.
Nous connaissons bien, 10 ans déjà. Et nous lui souhaitons évidemment une longue vie. Numéro, bien sûr, comme d'habitude, tout à fait intéressant avec quatre.
Plus intéressant encore.
Oui, quand même.
Merci Dominique.
Merci Dominique.
On va nous accuser de faire de la publicité.
C'est vrai qu'il est assez extraordinaire.
C'est un excellent. On ne fête pas tous les jours les 10 ans d'une revue qui ne fonctionne que par ses abonnés, etc. Mais une solidité tout à fait.
Oui, c'est-à-dire ça traduit la qualité de la revue en question.
Et la fidélité.
Les abonnés sont aussi fidèles sur une telle durée.
Et de plus en plus nombreux.
Et de plus en plus nombreux, bien sûr. Alors, dans ce numéro 4, 4 thèmes. Bon, un thème historique sur la conquête du Tchad dont nous avons parlé lors de l'émission du mois d'août. Donc, sur
article de Philippe Conrad.
Nous ne reviendrons pas aujourd'hui. Et surtout, 3 thèmes. Deux qui sont liés à l'actualité immédiate. D'abord, les événements du Rwanda avec les élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines et que vous voudrez bien nous commenter, Bernard, car apparemment la distinction que nous connaissons bien entre Tutsi et Hutu, on cherche apparemment à vouloir la gommer, à faire une nation rwandaise transcendant en quelque sorte ce clivage historique qui nous est familier. Et puis d'autre part, le voyage du président américain George Bush en Afrique. Alors là, il est intéressant de s'interroger sur la nature des relations que les États-Unis entendent établir avec l'Afrique noire. On a vu l'an passé, à l'occasion de la crise ivoirienne, comment certains sur place se tournaient vers les États-Unis par dépit vis-à-vis de la France, dans l'espèce de confrontation franco-américaine aujourd'hui mise en avant. Quelle va être ou quelle peut être la place de l'Afrique ? Et puis alors, le gros du numéro, il s'agit d'un dossier tout à fait intéressant, tout à fait original, consacré aux berbères. Hein, consacré aux berbères à travers divers thèmes, l'analyse de l'origine de ces populations donc d'Afrique blanche, d'Afrique du Nord, la place que ces populations ont tenue dans le développement de la civilisation égyptienne et enfin une question aussi très importante, dans quelles conditions s'est réalisée l'arabisation de ces populations berbères. Alors, tout d'abord, quelques mots, Bernard, à propos de l'Afrique réelle, puisque c'est le 10e anniversaire, il faut nous donner un petit peu un bulletin de santé de cette publication. Quel bilan peut-on tirer au bout de ces 10 ans ? La revue existe toujours, des abonnés nombreux, des abonnés fidèles, donc ça c'est le socle fondamental du succès, au-delà.
Un pari réussi, parce que quand j'ai lancé l'Afrique réelle il y a 10 ans, j'étais bien loin de me douter que 10 ans plus tard, nous fêterions l'anniversaire de la revue. La revue va bien, un taux de réabonnement de 85% en moyenne, et des abonnés plus nombreux qui arrivent, plus nombreux que ceux qui nous quittent, soit parce qu'ils meurent, malheureusement, soit parce qu'ils ne veulent plus lire la revue. C'est intéressant, c'est de voir la composition sociologique des abonnés. Trois tiers environ. On pourrait dire quatre quarts, mais trois tiers. Un gros tiers, profession libérale, et avec une majorité de membres des professions médicales. Énormément de médecins, d'infirmiers, dentistes, chirurgiens. Un gros noyau médical. Les institutions, avec une grosse importance de l'institution militaire. Visiblement, l'Afrique réelle est bien perçue par le monde militaire. Des abonnements partout. les institutions militaires, les régiments, c'est tout à fait intéressant. Et un public excessivement fidèle qui pose des questions, tout à fait intéressant. Des entreprises qui travaillent avec l'Afrique. Ça, c'est également tout à fait important. Entreprises qui travaillent avec l'Afrique. Et le troisième tiers, eh bien, ceux que j'appelle les anciens et les nouveaux coloniaux. Ceux qui ont vécu en Afrique ou qui vivent aujourd'hui en Afrique, qui ont de la famille en Afrique. Très, très peu de pieds noirs. Très peu. Quasiment pas. C'est tout à fait étonnant.
Oui, mais vous abordez surtout l'Afrique noire.
Non,
quand même,
hein. Non, je traite l'Afrique du Nord avec abondance. Le Maroc, l'Algérie, j'ai très grand dossier. Très, très peu de pieds noirs. En d'autres termes, très peu. Peut-être 5% à peine des abonnés. Alors que, parmi ceux que j'appelle les nouveaux ou les anciens coloniaux, énormément d'anciens d'Afrique noire. Alors, ce qui est intéressant également, boycott complet des universités françaises. À deux exceptions près, je ne citerai pas ici pour ne pas les gêner. Deux universités françaises. Sont abonnés,
bon et pas la mienne. Des choses.
Lyon 3 n'est pas abonné. Je précise tout de suite. Bon. Donc deux universités françaises abonnées, une université de sciences et une université de droit. Aucune faculté de lettres. Aucune ambassade de France. Aucun centre culturel français à l'étranger. Aucun service civil étatique français. Boycott total. Aucun lycée. Aucune bibliothèque municipale à l'exception de 3. Sur les 1700 bibliothèques qui existent en France, il y en a 3 qui sont abonnées. Toutes ces bibliothèques ont des abonnements à toutes les revues africaines, etc. En revanche, des abonnements dans les universités anglo-saxonnes, universités européennes, britanniques, belges, allemandes, hollandaises, des abonnements dans la grande presse anglo-saxonne. Aucun journal français n'est abonné à l'Afrique réelle. Donc un boycott complet du monde politique et du monde journalistique, et ceci ne nous gêne absolument pas parce que la revue marche très bien, merci pour elle, et lorsque l'on voit ce boycott systématique de l'institution civile, le ministère de la coopération n'est pas abonné bien sûr, les affaires étrangères non plus, ils peuvent toujours attendre pour que je leur envoie un gratuit, ça c'est certainement pas, on mesure là le blocage idéologique qui étouffe la France. Car l'on voit bien là que les élites fonctionnarisées doctrinalement autistes constituent de plus en plus la butte témoin de la pensée post-marxiste des années 60. Eh bien, ce vieux monde va crever, ils vont mourir, ils sont en train de mourir, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mourir. Ils sont comme un bateau qui avance, il n'y a plus d'hélice, il n'y a plus de gouvernail, ils vont droit sur les rochers, et ils vont, on sent intellectuellement le bouillonnement, et là, ils vont mourir, c'est la fin, hein. c'est vraiment la dernière phase de l'agonie du mammouth, qui va mourir sous sa graisse et sous ses blocages idéologiques. Et je vois bien quels sont les secteurs qui s'intéressent à l'Afrique réelle, ce sont les secteurs dynamiques de la société, les secteurs qui réfléchissent, et c'est tout à fait encourageant. À la limite, je suis ravi que le monde institutionnel ne soit pas abonné. Au moins, le choix est fait directement. L'Albanie des années 1970 se prolonge en France. Eh bien, elle va mourir derrière ses bunkers comme l'Albanie communiste. Et puis, le nouveau monde se créera sur les ruines de l'ancien. Car je suis excessivement optimiste. L'on sent les lézards, l'on sent les fractures, l'on sent la fin du vieux monde. N'est-ce pas, Dominique? On le sent, tout à fait. Nous qui sommes historiens sentons la poudre, nous sentons les grands déchirements qui vont nous ramener au réel, à l'ordre naturel, aux lois, à nos lois. Voilà. Alors rendez-vous pour le 20e anniversaire.
Rendez-vous. Devant un tel enthousiasme et une telle foi, on peut conclure que ce monde vétuste et sans joie n'a pas formé,
failli
tomber.
Alors, passons maintenant directement à la revue. Oui, alors je précise également que la revue fonctionne toujours sans la commission paritaire. Je rappelle aux auditeurs que lorsque j'ai lancé cette revue, j'avais demandé la commission paritaire. Et ça se passe de la manière... La commission paritaire, c'est très important, parce que les tarifs postaux sont réduits de 70 ou 80%. Donc c'est tout à fait extraordinaire dans le budget d'une revue. Et la commission paritaire est donnée au bout de 2 ou 3 numéros. Et si elle n'est pas donnée, il faut rembourser à l'État les ristournes postales qui ont été faites. Et bien entendu, les services du Premier ministre de l'époque avaient décidé de liquider la revue, et pour liquider la revue, de taper au portefeuille, et au bout de 2 ou 3 numéros, l'on m'a annoncé que je n'avais pas la commission paritaire. Il a donc fallu rembourser, et à ce moment-là, la Figaro a failli mourir. Et
vous nous rappelez qui était le Premier ministre de l'époque?
Eh bien, nous étions en 80... Attendez, nous sommes en 2003, à l'automne 93, 94...
Oui. Oui, ben, c'était Monsieur Balladur.
C'était Monsieur Balladur, voilà, c'était Monsieur Balladur. Alors, tout à fait. Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est que l'Afrique réelle, c'était pas lui, mais ses fonctionnaires, les fonctionnaires inamovibles. Il faut bien voir que la France est socialiste depuis 1945. Les ministres changent, mais les administrations sont toujours là. Ils sont toujours en place. C'est le problème de ce pays irréformable. Quand notre ami Pichon fait une conférence pour en finir avec le mammouth, on ne peut pas en finir avec le mammouth. Non, les rois de France avaient l'intelligence de comprendre, car eux étaient sages, quand une institution était complètement prise dans sa graisse, ils ne la supprimaient pas, ils la laissaient mourir et ils créaient autre chose à côté. L'administration française est totalement prise dans sa graisse et dans ses droits acquis et dans ses bastilles syndicales. Elle n'est pas réformable. Donc, revenons à nos moutons et revenons à la commission paritaire. Donc, je me suis trouvé dans une situation qui a été difficile. Il a fallu que je mette, bien sûr, de l'argent de ma poche pour pouvoir rembourser. Et puis, j'ai cru à ce moment-là que l'Afrique réelle allait couler. Et puis finalement, tout s'est bien passé, à telle enseigne que la commission maritime a écrit deux fois en disant « Écoutez, finalement, ben voilà, vous pourriez l'avoir, vous savez, la commission, voilà les formulaires, il n'y a plus qu'à les remplir. » Je leur ai envoyé en disant « Non, non, moi je ne mange pas de ce pain-là, vous n'avez pas voulu me la donner, et ben je ne la demande pas, je suis probablement le seul, enfin l'Afrique réelle est probablement le seul journal à grande diffusion, parce que j'ai comme une diffusion relativement importante, à ne pas avoir la commission paritaire, et je ne la demanderai pas. » C'est une certaine, un pied de nez. Et puis c'est une définition également de la libre entreprise. On peut montrer que l'on peut faire vivre une libre entreprise sans avoir besoin de la manne de l'État. Alors évidemment, ça prend une grande partie du budget de la revue, mais tant pis, c'est ainsi. Et je ne demanderai pas la commission paritaire. Nous fonctionnons, et je précise bien, cette revue ne bénéficie pas, ne demande pas et ne sollicitera rien de l'État et pas de la commission paritaire. On n'a pas voulu la donner, mais tant pis. Nous sommes organisés différemment. Nous avons fait un système d'organisation budgétaire différent. Bon. Alors, ce numéro, vous le disiez, Philippe Conrad, est consacré à un certain nombre de dossiers.
Trois grandes questions.
Alors, passons rapidement sur le Rwanda.
Le Rwanda à propos des élections, qui ont eu lieu.
Passons rapidement. Nous allons insister sur le problème berbère tout à l'heure. Je passe rapidement. Disons que le général Kagame, président du Rwanda, vient de se faire élire avec un score soviétique, plus de 95% des voix, et le vote, et bien entendu, est un vote qui a été très largement pas truqué, mais très influencé, parce que pèse une épée de Damoclès sur tous les Hutus du Rwanda. Avec les systèmes de justice au Rwanda, tout Hutu est un suspect en puissance, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, après le génocide. Et les Hutus ont intérêt à marcher au pas, car tout Hutu qui dévie de la ligne peut se voir accusé de génocide et aller immédiatement en prison. Ce qui fait que le parti unique qui s'est développé par le contrôle des collines, par le contrôle de tous les comités, a fait que tout le monde a voté comme un seul homme. Et la doctrine officielle du régime est la suivante, il n'y a plus d'ethnie. Alors je le dis dans l'article, j'explique, extinction du paupérisme après 9h du soir pour supprimer la pauvreté, transfert des villes à la campagne pour régler le problème. Mais là, au Rwanda, on a cassé le thermomètre, et il peut pas y avoir une domination d'une ethnie sur les autres, puisque les ethnies n'existent plus. Et quiconque, au Rwanda, parle d'ethnie, est traité de divisionniste. La seule accusation de divisionniste fait envoyer en prison. Ce qui fait que personne n'est divisionniste. Alors ce qui s'est passé, c'est que le non-candidat Tutsi l'a emporté, le candidat non-Tutsi l'a emporté sur le candidat non-Hutu. Alors le problème, il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. La seule chose, c'est que ce sont les plus grands parmi les non-Tutsi qui dominent les petits, qui sont les non-Hutus. Alors évidemment, c'est le grand écart. C'est le seul moyen pour les 20% de Tutsis de dire qu'ils sont, de légitimer ainsi leur pouvoir. Il est évident que s'ils se fondaient sur l'appartenance ethnique, tout le monde dirait, il n'est pas normal que 20% de la population, ou 15%, ou 10%, en domine 80 ou 90%. Donc c'est un grand écart sémantique qui ne fait que gagner du temps, malheureusement, et ce n'est pas forcément la meilleure solution pour l'avenir du Rwanda, parce que les frustrations vont s'accumuler. Et on verra bien ce qui en sortira si le général Kagame arrive à tenir son pays. Dans tous les cas, L'expérience Kagame est intéressante dans la mesure où le pays est en train de se remettre sur ses rails. Le Rwanda, tout petit pays avec une forte population, apparaît comme la puissance incontournable, entre guillemets, en parlant un terme contemporain à la mode qui n'est pas très joli, mais qui est un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire, la puissance dominante de la région. Et aucun accord de paix, aucun règlement régional ne pourra se faire sans l'aval du Rwanda. Deuxième dossier, bon, l'Amérique et l'Afrique, nous n'allons pas en parler aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps. Disons que les Africains, une fois de plus, se sont nourris de promesses qui ont été faites par le président Bush, promesses qui n'engagent d'ailleurs que ceux qui les écoutent. Nous reviendrons, puisque nous nous retrouvons dans une quinzaine de jours, nous parlerons de cela dans 15 jours, beaucoup plus en détail. J'aimerais que nous insistions davantage aujourd'hui sur la question des Berbères. Pourquoi ? Parce qu'une découverte scientifique tout à fait importante, tout à fait fondamentale, vient d'être faite. Une découverte tout à fait fondamentale qui me réjouit parce qu'elle conforte mon hypothèse de travail. Mon hypothèse de travail dans mon histoire de l'Égypte, que j'ai publiée donc il y a 2 ans, était que l'Égypte devait plus au Sahara, donc au monde berbère, qu'au monde oriental ou au monde méridional. Et j'avais même intitulé un chapitre l'influence berbère dans la création de l'Égypte. À l'époque, j'avais été attaqué assez sévèrement par un certain nombre de confrères. C'était mon hypothèse de travail. Je dis bien, c'était je la fondais cette hypothèse, mais ce n'était qu'une hypothèse. Or, découverte tout à fait extraordinaire, la génétique vient de rendre public le professeur Lucotte, qui est le grand anthropologue français qui publie aux États-Unis, vient de publier un article tout à fait important, qui n'est pas encore connu, cet article, car l'article date du mois de juin de cette année. Il n'est pas encore passé dans le domaine de la vulgarisation. Donc les journalistes ne pourront pas le piller tout de suite, n'est-ce pas, pour se l'attribuer comme certains le font. Et cet article est fondamental parce que c'est un article qui est basé sur les études génétiques, je n'entre pas dans le détail, de la population égyptienne d'aujourd'hui. Et un système d'analyse sur les haplotypes, qui est très très savant, c'est-à-dire très savant, c'est-à-dire il faut être vraiment spécialiste pour s'y retrouver, montre que le fond ancien de la population de l'ancienne Égypte était berbère. C'est tout à fait extraordinaire. Et les analyses génétiques montrent que plus on va vers le sud, et moins il est berbère, et plus il est nubien, et plus on va vers le nord, et plus il est berbère, ce qui est évident. Ce que l'on voyait depuis toujours, l'Égypte était un pays blanc, la Nubie était un pays noir, et les thèses afrocentristes de Cheikh Diop et de Martin Bernal sont pulvérisées par la génétique. Toutes les critiques historiques que nous faisions sont confirmées là par la génétique. C'est une révolution dans l'histoire, je dis bien, c'est un séisme dans l'histoire de l'Afrique. C'est un séisme, pourquoi ? Parce que nous avons là, par les études génétiques, la preuve, premièrement, que les anciens Égyptiens étaient des Blancs, mais plus important, qu'ils étaient berbères. Et lorsque je mets en avant l'hypothèse par les apparentements artistiques, par les styles artistiques, de la même matrice culturelle rassemblant les anciens Égyptiens et les chasseurs chasseurs nomades du Sahara oriental, eh bien, j'avais vu juste. Et ceci est tout à fait fondamental. C'est une immense avancée dans l'histoire de l'Afrique. Ce qui replace complètement les Berbères au cœur de l'histoire. Les Berbères qui sont là, replacés totalement dans cette histoire de toute l'Afrique du Nord et toute l'Afrique centrale, centre-saharienne, parce que les études de Lucotte vont bien au-delà. Les études de Lucotte montrent que ce fond berbère est encore excessivement important, même en Libye, largement en Égypte, et que l'apport noir est tout à fait secondaire. Par exemple, parmi les haplotypes principaux que l'on retrouve dans la population égyptienne et qui permettent de dire que le fond est ancien, appartenait à telle ou telle population, le fond éthiopien est beaucoup plus important que le fond noir africain. Le fond noir africain ne se retrouve quasiment pas. Ce qui fait, alors qu'il va se retrouver à 95% en République centrafricaine ou au Zaïre. Donc toutes les hypothèses de Cheikh Anta Diop, toutes les hypothèses, tout le délire afrocentriste, sur lesquels repose l'histoire officielle de l'UNESCO, sur lesquels repose le congrès de Durban, sur lesquels repose la culpabilisation de l'Europe, tout est faux.
tout est réduit à néant par la génétique. C'est extraordinaire. C'est une véritable révolution. Tout ce qui a été écrit en histoire africaine jusqu'à la publication de Luc Cotte du mois de juin dernier est à mettre au panier concernant les origines des populations actuelles de l'Afrique. C'est fondamental. J'aimerais pas être à la place des afrocentristes. Je n'aimerais pas être à la place de mes chers confrères qui publient des articles en disant que les ethnies sont ont des origines coloniales. Je rentrerais dans un trou de souris, moi, à leur place. Je me ferais oublier, parce que là, ils ne connaissent pas l'article. Ils ne savent pas encore que l'article... Il va falloir 2 ans avant de le découvrir, cet article. Ils vont le découvrir parce que l'Afrique réelle va en parler, et peut-être va-t-on en parler. Dominique, en parlerez-vous, mentionnerez-vous cela dans la nouvelle revue d'histoire?
Certainement, oui.
Parce que c'est un thème qui...
Bien sûr,
c'est un thème qui...
C'est un sujet capital.
C'est un sujet capital. Capital. Alors, ces berbères. Revenons aux berbères. Ces oubliés de l'histoire. Ces berbères qui sont complètement marginalisés dans l'histoire. Mais pas seulement dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Dans l'histoire de toute cette partie septentrionale de l'Afrique. Les berbères qui ont, à l'époque de la fin de la péjoration climatique, de la phase de péjoration climatique, être les seuls maîtres du Sahara, qui vont chasser du Sahara, ou plutôt qui vont occuper les espaces qui sont abandonnés par les populations noires. Parce que les pasteurs noirs occupaient le Sahara central, jusqu'au Hoggar à peu près. Et à partir de 3000, 4000 avant Jésus-Christ, ces populations de pasteurs noirs reculent. Et ceci est magnifiquement représenté sur les peintures sahariennes. Nous voyons les niches écologiques occupées par d'autres populations. Et nous voyons cette poussée considérable des berbères blancs vers le sud. Et au même moment, nous voyons comment l'Égypte, la vallée du Nil, qui avait été totalement vidée de sa population par des crues effarantes du Nil, car le Nil connaît des crues effarantes vers moins 10 000, vers moins 11 000, un véritable siphon, il n'y a plus d'habitants dans la vallée du Nil. Les crues qui mettent le niveau du Nil à 20, 25 mètres au-dessus de son niveau actuel. Donc un véritable siphon avec le Nil blanc, le Nil bleu, qui sont alimentés par les pluies tropicales équatoriales, la population... vide, complètement, évacue la vallée du Nil. Et la vallée du Nil est repeuplée comment? Elle est repeuplée par le Sahara, au nord par les berbères, et au sud par les pasteurs noirs sahariens. Et dès le début, le tropique du Cancer, à peu près, fait la limite ethno-raciale. Et vous reportez cette limite sur la carte de l'Afrique, et vous avez la limite des peuplements blancs et des peuplements non blancs dans la vallée du Nil. Et ceci est fondamental. Ceci était une évidence géographique. Il a fallu attendre la génétique pour réduire à néant les songes, les mensonges et la désinformation des afrocentristes. Intéressant de se tenir au courant des publications qui sont faites dans les pays anglo-saxons tout de même, parce que c'est une publication qui est faite dans la principale revue d'anthropologie américaine. Ce n'est pas une publication qui est faite en France. En France, on n'aurait peut-être pas le droit de publier des choses comme cela. Et il faut donc chercher dans des pays où il y a encore une liberté de recherche scientifique, ce genre d'éléments. Alors, comment vont réagir les spécialistes du monde, de la revue L'Histoire, etc., face à cela? Comment vont-ils se torturer les méninges pour transformer les résultats de cette recherche? Alors là, ça va être intéressant de voir par quelle réputation sémantique ils vont essayer de retomber sur leurs pieds d'idéologues mous.
Ils vont se réfugier dans le silence, tout simplement.
Non, on va pas le silence, nous allons essayer de le combler, ce silence. Alors oui, Philippe Conrad, j'ai beaucoup parlé, là, mais je vous laisse la parole.
Alors évidemment, ces berbères dont on voit le poids, l'importance dans toute cette Afrique septentrionale, la question évidemment est posée depuis longtemps de savoir dans quelles conditions ils ont été arabisés. Hein, je cite à ce propos la question que se posait Gabriel Camps, grand historien préhistorien de l'Afrique du Nord, qu'il formulait ainsi: comment l'Afrique du Nord, peuplée de berbères en partie romanisés, en partie christianisés, est-elle devenue en quelques siècles un ensemble de pays entièrement musulmans et très largement arabisés, au point que la majeure partie de la population se dit et se croit d'origine arabe?
Ah ben, nous sommes tout à fait...
une question historique de grande envergure.
Alors Gabriel Camps, d'abord qui était le regretté Gabriel Camps? Gabriel Camps était le grand historien de l'Afrique du Nord, du monde berbère. C'est un homme tout à fait extraordinaire, ce Gabriel qui est mort il y a quelques mois. Et Gabriel Camps posait vraiment bien cette question. Car en fait, le grand problème est que face aux populations d'Afrique du Nord, nous pensons que nous sommes en présence d'Arabes. C'est faux. Nous sommes en présence
de deux types de populations. Soit de berbères qui sont restés ethniquement des berbères, soit de berbères racialement entre guillemets berbères, qui sont culturellement devenus arabes. Mais il n'y a pas d'apport de population arabe, ou très peu. Nous verrons ensuite comment arrivent ces arabes, très peu. Et aujourd'hui, l'arabisation intellectuelle est telle que des familles qui sont morphotypiquement d'origine génétique berbère croient qu'elles sont d'origine arabe, car leurs ancêtres sont rentrés dans des kabilas arabes, et selon le principe cher aux populations d'Arabie, lorsque l'on entre dans une famille ou lorsque l'on entre dans une parenté ou parentèle, l'on adopte la généalogie. Donc c'est tout à fait de bonne foi que des gens qui sont en fait des berbères génétiques pensent qu'ils sont des arabes en récitant leur généalogie qui les rattache à des grandes tribus arabes de la péninsule arabique. Parce que, comment s'est passé le problème, la question ? Nous revenons à la conquête. La conquête de l'Afrique du Nord par les arabo-musulmans. Cette conquête a été rapide. Elle a été rapide, nous en connaissons les causes. Dislocation du monde romain, lutte de division de l'Église, les schismes, les hérésies. Dans la partie la plus orientale du Maghreb, la présence des Vandales, les Byzantins qui sont détestés par les Berbères, les Berbères des villes qui sont opposés aux Berbères des campagnes. Donc un monde totalement désunis, et face à ce monde désuni, l'envahisseur, qui lui est porteur d'une religion neuve et excessivement dynamique, va rentrer très facilement. Mais attention, la conquête ne va pas se faire très 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 facilement, il va y avoir des résistances. Les berbères vont résister, d'abord les Byzantins vont résister. Mal, parce que les Byzantins sont enfermés dans les villes, avec des belles murailles, de belles fortifications, mais ils commettent chaque fois l'erreur de sortir avec leur infanterie en plaine, et ils sont taillés en pièces par les cavaliers venus d'Orient, qui ne sont déjà plus des cavaliers uniquement arabes. La majorité est composée d'Égyptiens, car les Arabes sont déjà minoritaires dans les troupes d'invasion. Donc l'invasion est déjà une invasion qui n'est pas complètement arabe. Les Byzantins se font tailler en pièces, ils vont essayer de revenir, ils reprennent Carthage après l'avoir perdu, etc. Les berbères eux-mêmes, certains berbères vont résister. Il est intéressant de voir que vont résister les berbères qui sont christianisés et qui sont relativement romanisés. En d'autres termes, vont résister les berbères qui ont perdu leur berbérité. Mais les berbères non chrétiens, non influencés par Rome, essentiellement ceux de la partie ouest du Maghreb, c'est-à-dire ceux de la vallée de la Moulouya et du Maroc actuel, eux vont se convertir immédiatement à l'islam. Ce qui va sauver la berbérité. Je ne sais pas si vous me suivez. Les berbères romanisés et chrétiens vont lutter farouchement, et quand ils seront vaincus, ils se convertiront à l'islam et ils perdront le souvenir de leur berbérité. Ils deviendront arabes culturellement. Et ils vont se fondre dans le monde civilisationnel arabe, tandis que les berbères, qui eux étaient restés païens, vont accepter l'islam, et la rapidité de la conversion va sauver la berbérité. Et nous avons aujourd'hui la carte des ensembles berbères qui sont restés homogènes et qui sont restés fortement berbères. Mais c'est la carte de la non-romanisation et de la non-christianisation de l'Afrique du Nord. C'est tout à fait intéressant. Les grands noyaux berbères, authentiques, sont ceux qui n'ont pas été pénétrés par la romanité. Et c'est un paradoxe que l'on ne s'explique pas. C'est un paradoxe qui est une réalité. Et les berbères vont lutter ensuite. Les berbères islamisés vont lutter contre la présence arabe. Mais non pas contre l'islam. Et ils vont au contraire adopter toutes les hérésies musulmanes successives. Car pour eux, le fait religieux est secondaire. Je parle de l'ensemble des berbères à ce moment-là. Le fait religieux, pour ceux qui avaient été chrétiens et pour ceux qui se convertissent à l'islam, n'est tout que secondaire. Seul compte le peuple et l'ethnie. Et ces berbères, devenus musulmans, vont repousser l'influence arabe au nom de l'islam. Ouais. Tout compris. Ils vont chaque fois utiliser les schismes qui affaiblissent le monde arabe oriental. et ils vont toujours être au cœur de ces schismes. Et comme ce sont des guerriers, ils vont souvent être l'élément moteur militaire de ces schismes. Les Fatimides, par exemple. Le schisme Fatimide est un schisme qui repose sur les tribus berbères Koutama et qui va consister à la conquête de l'Égypte et de la Palestine par les berbères. Mais ensuite, ça évoluera. Le kharijisme est un cas d'école. Le kharijisme est une notion qui est très claire. Que se passe-t-il dès le début de la conquête musulmane, arabe, pardon? Dès le début de la conquête arabe, les Arabes deviennent minoritaires dans le monde musulman. Dès qu'ils sortent d'Arabie, se convertissent à l'islam des non-Arabes. Ce qui fait que les Arabes vont créer une aristocratie arabe dominante, un ensemble de convertis. Ce qui va tout à fait dans le sens contraire du message égalitaire de l'islam, universaliste et égalitaire. Une sorte d'aristocratie qui plus est de deux ou trois tribus d'Arabie. Les nouveaux convertis ne vont pas l'accepter, car pour eux, le commandement du monde musulman ne doit pas revenir à une aristocratie, à une filiation, doit revenir aux meilleurs parmi les musulmans. Et c'est pour échapper à la colonisation arabe que va être développée la doctrine kharijite, doctrine qui dit que le commandement de la communauté n'est pas héréditaire et doit appartenir par égalité aux meilleurs des musulmans. Les berbères, notamment ceux du Maroc, qui sont restés ethniquement très fortement berbères, n'acceptent pas d'avoir des gouverneurs venus de Damas ou venus de Bagdad en l'occurrence. Et ils vont, au nom du kharijisme, se soulever contre les gouverneurs et contre le monde oriental. Et toute l'histoire des berbères va être une suite d'adhésions aux divers schismes qui vont permettre de repousser la présence arabe. Et au nom de l'islam, cette constante est tout à fait extraordinaire. Le sentiment ethnique est tellement fort qu'ils vont faire inconsciemment le pari de faire du judo avec la religion dominante. Ils utilisent la religion dominante pour mieux écarter la colonisation arabe. Et ça va marcher. Ça va marcher jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et l'évolution, tout va changer au XIIe, XIIIe siècle quand les Fatimides se retournent contre ceux qui les avaient mis au pouvoir, c'est-à-dire les royaumes berbères, les principautés berbères d'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que ces principautés berbères d'Afrique du Nord vont se tourner contre les Fatimides. Car le pouvoir fatimide du Caire devient un pouvoir qui, à son tour, risque d'oppresser la berbérité. Et quand les berbères ont ce sentiment, ils vont trahir les Fatimides pour se tourner vers Bagdad. Ce qui fait que les Fatimides, qui sont en lutte contre Bagdad, vont décider de punir les berbères. Et comment vont-ils les punir ? En faisant déferler sur le monde berbère 5 grandes tribus arabes parmi les plus pillardes et les plus primitives, Beni Solahim, Beni Hilal, Beni Mahil, avec toutes leurs confédérations. Et ces tribus vont être envoyées vers l'ouest, terre de conquête. Allez-y. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui est arbres, fruitiers, plantations en Libye est éliminé. Jusqu'à cette époque, la Libye avait conservé ses vergers, avait conservé. C'est à ce moment-là que la Tunisie devient un désert, la Tunisie qui était un verger. Ces tribus vont transférer en Afrique du Nord l'économie pastorale basée sur la chèvre et le mouton, qui était celle des zones les plus déshéritées de l'Arabie. Et ces tribus arrivent sur le Maghreb. Les berbères vont les combattre. Les berbères almohades, qui sont les berbères de la montagne et qui ont créé l'empire almohade, et les autres vont les combattre. Ils vont les repousser. Ils vont les écraser militairement. Dans la région de Sétif. Les combats ont lieu dans la région de Sétif. Ces Arabes sont écrasés. Que va-t-il se passer? Mais nous sommes dans les phases de la Reconquista espagnole. L'islam est menacé en terre d'Espagne. Les entités berbères nord-africaines vont voler au secours de leurs frères qui sont en Espagne, qui sont essentiellement des berbères aussi. N'oublions pas que la conquête de l'Espagne n'a pas été faite par des Arabes, mais par des berbères. Le corps du débarquement était berbère. Il y avait très peu d'Arabes en Espagne. L'Espagne n'a pas été arabisée. Elle a été islamisée par des berbères. Il y a eu très peu. 5% de la population était arabe, à peu près.
Elle a été arabisée sur le plan linguistique.
Ah non, mais elle a été à 100% arabisée sur le plan linguistique. 100%. Mais elle n'a pas été arabisée par des Arabes génétiques. Il n'y en avait pas. Très peu. Et ces berbères qui ont besoin de combattants contre la Reconquista chrétienne, vont installer ces unités, ces tribus, qui vont prendre possession de zones entières, notamment la vallée de la Moulouya, les grandes vallées, une partie de l'anti-Atlas, et des hauts plateaux. Et le phénomène va avoir des résultats considérables. Pourquoi ? Car une partie des tribus nomades berbères, qui avaient le même mode de vie que ces tribus arabes, vont s'agréger à ces tribus berbères, à ces tribus arabes, pardon. Et l'on voit à ce moment-là, effectivement, des Arabes attirés à eux des berbères qui vont se fondre dans ces généalogies arabes, dans ces tribus arabes, et l'on va voir des zones entières dans lesquelles les Arabes vont devenir dominants, et dans lesquelles le monde berbère va être complètement éliminé. On va également voir, bien entendu, une grande destruction du monde agricole berbère, et un repli d'une partie des berbères vers les montagnes, parce que ces tribus vont avoir un rôle dévastateur quand l'État marocain, ou quand les divers États de l'Afrique du Nord vont entrer en décadence, ces nomades vont prendre le dessus sur les populations sédentaires. Alors, toute la question est de savoir, quel était le rapport démographique? Combien étaient les berbères et combien étaient ces Beni Solahim, Beni Hilal, etc. L'on pense que ces envahisseurs arabes n'étaient pas très nombreux. Ils devaient être entre 150 et 300 000. Alors, 150 et 300 000, si les berbères sont 10 millions, ça ne compte pas. Si les berbères sont 3 millions, c'est déjà plus important. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, par les études de la génétique, qui ont été faites toujours par Lukoc, l'on sait que le fond berbère est quand même excessivement dominant dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Toute l'Afrique du Nord, et surtout dans le Maghreb, avec des taux qui sont les mêmes en Algérie et au Maroc. Avec deux noyaux, bien entendu, particulièrement forts au Maroc, le Rif et l'Atlas. Et le Maroc et l'Algérie ont à peu près le même pourcentage de base, par les haplotypes, d'origine de vieux fonds de population berbère. Alors c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'histoire de toute cette région qui est à réécrire. Et il ne faut pas confondre l'islamisation et l'arabisation parce que, bien sûr, ces berbères vont être obligés de s'arabiser, ne serait-ce que pour le culte. Le Coran, en théorie, ne peut pas être traduit. La langue du culte est l'arabe. Mais ces berbères ne vont utiliser qu'un minimum l'arabe et vont rester profondément berbères. Et voilà pourquoi nous avons ces grands noyaux de zones berbères. Et le grand hiatus aujourd'hui est que l'essentiel des habitants du Maghreb, d'origine berbère, et une grande partie d'entre eux pensent être d'origine arabe, ce qui est inexact. Ce sont des Arabes culturels, ce sont des Arabes religieux, par l'introduction de l'islam qui était, dont le vecteur était l'arabe, mais ce sont génétiquement des berbères. Et ceci est tout à fait important, et ceci ouvre des hypothèses, des directions de recherche tout à fait intéressantes. Quand on voit le rôle qu'ils ont eu dans les grands empires, lorsqu'on voit le rôle qu'ils ont eu dans l'Égypte, etc. Voilà ce que l'on peut dire sur la question des berbères. Y a-t-il des questions là sur ce sujet, Victoria?
Les Kabyles du Constantinois ont bien conscience de ne pas être des Arabes et disent qu'ils ont été islamisés par force. Certains orphelins dans leur enfance ont été élevés par les pères blancs. Je le sais car mon père était originaire de ces régions.
Oui, il y en a eu quelques centaines, oui. C'est exact.
Et un auditeur vous
signale... Mais quand les pères blancs sont arrivés, les berbères avaient bien oublié qu'ils avaient été chrétiens. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les berbères qui ont été christianisés en Afrique du Nord et ont été généralement issus de tribus qui n'avaient jamais été chrétiennes.
Votre revue n'existe pas à Sciences Po, nous dit cet auditeur. Elle dérange probablement.
Mais elle existe... Je vous dis, il n'y a que deux universités françaises abonnées. Alors, il ne risque pas de la trouver à Sciences Po. Il y a deux universités, une de sciences et une de droit.
Bravo, Monsieur Lugan, pour votre livre God Bless Africa. Comment a-t-il été reçu par le public français?
Pas mal, puisque le premier tirage est épuisé. La deuxième édition sort la semaine prochaine, avec les coquilles en moins, puisqu'il y a eu pas mal de coquilles dans la première édition, et avec une actualisation. Donc le premier tirage, je crois qu'il devait être de 7500, est épuisé. Donc aucune publicité. Aucune publicité à part, bien sûr, sur Radio Courtoisie et dans les quelques journaux amis. Aucun article de presse. C'est la première fois que je fais un livre pour lequel il n'y a aucun article de presse.
Rien. Une question, quelle différence y a-t-il?
Non, mais nous. Je dis les revues, bien sûr, les revues, évidemment, une nouvelle revue d'histoire qui en a fait. Quand je parle des revues amis, une nouvelle revue d'histoire, il y a un certain nombre de revues amis, je ne peux pas toutes les citer, mais rien dans le Figaro, rien dans toutes ces revues. Non, rien. Vous voyez, le bouche à oreille a fonctionné.
Quelle différence y a-t-il entre Berbère et Kabyle?
Même chose. Même population. Le nom Kabyle est le nom des Berbères donnés en Algérie. Berbère, Kabyle, même nom. Et les anciens Grecs, lorsqu'ils parlaient des Berbères, parlaient des Libyens. Pour eux, c'était les Libyens. Toutes les populations blanches qui vivaient au sud de la Méditerranée étaient les Libyens. Bien, pas d'autres questions là-dessus. Alors, je renvoie donc, puisque nous arrivons là à la fin de l'émission, je renvoie donc à l'Afrique réelle. L'on peut se procurer le numéro spécial 10e anniversaire, seul. Écrivez donc à la revue, nous vous enverrons les tarifs. Les abonnements ont augmenté. Une augmentation tous les 10 ans, c'est bien. La prochaine augmentation dans 20 ans. Tout augmente, ma pauvre dame, ma pauvre Victoria. Où allons-nous? Alors, l'abonnement annuel pour les 4 numéros, 68 euros. Donc, l'abonnement de 1 euro par an sur 10 ans, ça va, c'est raisonnable. Et boîte postale numéro 6, 03140 à Charroux. Que les abonnés en cours se réabonnent vite, parce que la revue est saine, car les réabonnements se font rapidement. Et continuez, chers auditeurs. Boîte postale numéro 6, 03140 à Charroux. Alors, nous nous retrouvons, chers auditeurs, le 8 octobre, c'est cela? Non, le mercredi 8 octobre. Donc dans 15 jours, n'est-ce pas? Nous reparlerons de l'Amérique, des États-Unis et de l'Afrique, nous n'avons pas à parler aujourd'hui. Nous développerons ce point, et puis nous parlerons de bien d'autres choses tout à fait intéressantes. Il nous reste 2-3 annonces à faire, Victoria.
Oui, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de l'abonnement. Bon, 4 numéros, c'est 68 euros pour inclus. Mais pour les dom-tom et l'étranger, parce que...
Ah oui, mais j'ai pas le prix en tête, là, pour les...
si,
qu'on nous écrive.
Y compris CE, dom-tom et étranger. Oui, y compris CE, 95 euros, port inclus.
Oui, parce que les prix de poste sont monstrueux. Et il n'y a aucune réduction postale.
Et on peut même envoyer 200 euros si on veut faire un abonnement de soutien.
Ou même rajouter 3
euros,
si vous voulez.
Et les étudiants, oui. en France métropolitaine, sur photocopie de leur carte d'étudiant, paieront 35 euros.
Oui, alors pourquoi ces prix si importants pour la CE et les DOM-DOM? Parce que la Poste ne négocie pas les tarifs pour l'étranger. Ce qui fait que les prix sont monstrueux. C'est un poste budgétaire qui est absolument incroyable. Vivement la privatisation. Je pense que dans 2-3 ans, les tarifs de l'Afrique réelle vont pouvoir baisser, parce que dès qu'il y aura la libre concurrence dans la Poste, j'irai négocier ces tarifs, quitte à faire partir de l'Afrique réelle depuis la Belgique, ou depuis la Suisse, ou depuis l'Italie. Parce qu'il n'est pas normal de verser un tribut, c'est un véritable tribut, au PTT. Le poste PTT est presque aussi important que le poste fabrication, ce qui est absolument indécent. C'est un type de définition tiers-mondiste, c'est-à-dire la distribution, les intermédiaires sont plus importants que les fabricants. Voilà de quoi est en train de crever la France, à tous les niveaux.
On nous demande, et je rappelle donc le titre du livre de Jacques Hers, « Les négriers en terre d'islam, la première traite des Noirs, du 7e au 16e siècle, éditeur pour l'histoire Perrin, prix 22 euros. »
Alors nous avons parlé de la nouvelle revue d'histoire, numéro 8, la revue dirigée par Dominique Vénère, numéro tout à fait passionnant, comme tous. Chaque fois, les numéros sont de plus en plus passionnants. Où vous allez vous arrêter, Dominique? Nous n'aurons plus de superlatifs bientôt. Nous les mettrons au cube, au carré et au cube. Et ce numéro qui est en vente dans tous les kiosques, autrement, écrire à la revue, l'adresse que vous avez donnée. Pouvez-vous la rappeler, s'il vous plaît?
88 avenue des Ternes,
75 017 Paris.
Les chants berbères que nous avons passés, qui sont très beaux, sont des collections chants du monde. Et chers auditeurs, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous donc au 8 octobre. Victoria, merci infiniment. Bonsoir, Victoria.
Bonsoir.
Bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Bernard.
Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Bernard.
Je salue la régie. Et chers auditeurs, bonsoir et à bientôt.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebecquetch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 septembre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros, où elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.